Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission en jase, ton émission du midi. De midi à 14h avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte qui est là encore une fois cette semaine en remplacement de Pascal CV. Merci Matt, tu fais un travail exceptionnel. Antonine Iaccarini, qu'on n'aura pas pendant 2 heures aujourd'hui, on pleure, hein Matt? On est déçus.
Vous avez l'air triste.
On
aime ça quand
déçus.
T'es là, Anto. On aime vraiment ça, surtout qu'hier, je le répète, t'as pris la relève de façon exceptionnelle pendant que mes yeux étaient rivés sur le but de Mitch Marner en prolongation.
Pendant que nos yeux étaient rivés.
Oui, exactement.
les deux gars ben trop concentrés sur la game de hockey. Oui. Mais en même temps, c'était toute une game hier du Canada contre la Tchéquie. Puis en parlant de toute une game, tantôt, on en a eu une au hockey féminin,
ouais,
là,
la
Suisse. Qui s'en va chercher la médaille de bronze contre la Suède. Ça a été tout un match, tout un tournoi de la gardienne suisse. Je pense que c'est honorable de mention.
Vraiment. Et puis, 13h10, Canada-États-Unis, finale en hockey féminin. On en parle aux alentours de 13h40 avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif au 99.5 Montréal. La première période va venir de se terminer, donc on va pouvoir jaser du match. Ben en masse, puis de cette blessure à Sidney Crosby. 418-971-1021, c'est le numéro par texto pour nous rejoindre. Vous le savez parce que vous le faites en très grand nombre. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est les meilleurs moments qui vont se retrouver également sur notre site web. Joël Lightbaum, député de Louis Hébert, ministre au sein du gouvernement de Mark Carney, sera avec nous environ dans une dizaine de minutes. On va parler des priorités pour la région de Québec. Notamment, on va-tu enfin le confirmer, c'est un Moses de financement-là pour le tramway, Antonine? Ça niaise!
Je pense que, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais j'ai peur qu'on ait des réponses encore très évasives.
Primeur sur les ondes de Boulevard 102.1.
J'ai espoir. OK.
On verra.
Tu m'as redonné l'espoir.
Ouais, j'ai pas tant espoir que ça, on le disait. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Vous avez un haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Bang! Ça apparaît directement à l'endroit où vous êtes. twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Vous êtes beaucoup de gens à le faire depuis 2 semaines. Je suis très, très, très content de ceci. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que l'excellent caucus avec Antonine s'y retrouve à chaque jour. Et d'ailleurs, pas de niaisage vu que Joël Lightbound s'en vient. On amorce immédiatement le
caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonine Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
On y va d'un caucus politique, vous le savez bien, mais on va quand même poser une question à valeur humaine. Et je veux que vous répondiez au 418-971-1021. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre travail ou votre conjoint ou conjointe?
Là,
répondez. 418-971-1021.
Nécessairement.
La question de sondage est biaisée.
Ou conjoint et conjointe? Je veux avoir vos réponses. Et on écoute Grégory Kelly, député pour le Parti libéral du Québec, mari de Marois Risky, père de leurs 2 enfants. Ce qu'il a dit par rapport au caucus libéral.
Les gens vont peut-être questionner ma décision. Je vais rester au caucus, c'est sûr. C'est exactement ce que mes citoyens de Jacques-Cartier m'ont demandé. Greg, restez autour de la table. On a besoin de toi. Je sais que les gens peuvent critiquer les décisions que je prends, mais c'est pas facile. Marcher dans mes souliers de temps en temps, je suis humain. J'essaie de faire mon mieux possible chaque jour pour le Québec et pour mes citoyens.
Simon par texto, caltard, Jeff, la famille en premier. On comprend pas ce qui se passe dans leur tête.
Jeff,
Isabelle
t'es pas
qui
correct,
répond.
Jeff. T'es pas correct.
Ah, Isabelle répond, je suis célibataire, donc ma job, sinon je peux rien payer. En effet, mais Greg Kelly choisit le caucus qui tourne le dos à Marois Risky à la place de sa femme.
Jeff.
J'espère qu'elle va le laisser dans les 48 prochaines heures.
Tu n'es pas honnête.
Et pourquoi je suis pas honnête? C'est ce qu'il fait!
Ben, premièrement, elle est députée. Il est député. Il n'a pas une job normale. OK? On va remettre en contexte un peu les choses.
Okay.
Marois Risky a été exclue du caucus parce qu'elle a décidé, un jour au lendemain, de poser un geste qui a créé une crise terrible, à tort ou à raison. On ne sait pas encore. Moi, je donne le bénéfice du doute. Je ne le sais pas si elle avait eu raison de le faire.
En effet.
On va l'apprendre dans la poursuite. Greg Kelly, c'est son mari, Il est député. Il était député avant de se marier avec Marois Risky.
Oui.
Et là, il faut mettre en contexte l'importance de la politique dans la vie de cet homme-là. OK? Je vous dis pas que c'est le meilleur député que depuis l'invention du pain tranché ou quoi que ce soit, mais il vient d'une famille très politique.
OK.
Son père, Jeff Kelly, était député de la même circonscription avant lui. C'est une dynastie. Tu comprends? Il se passe la circonscription de père en fils. Ça, c'est des vrais châteaux forts libéraux.
Oh,
là.
Oui, là, c'est ça.
Lui, là...
Du vrai monde qui vote les deux yeux fermés, là.
Je ne pense pas que Greg Kelly n'a jamais pensé vers autre chose de sa vie, là, dans sa tête. Lui, s'il veut rester député toute sa vie, cette circonscription-là va jamais voter pour la CAQ, QS ou pour le PQ. Ouais. Vous pouvez en être... C'est dans le West Island à Montréal, là. Il pourrait rester député pour toute sa vie. D'ailleurs, je tiens à dire que son père s'appelle Jeff. Ça commence par un G. Joff, là. Comment les...
Comme Joff Monson.
Jeffrey. Lui, il s'appelle Greg et son fils s'appelle Gabriel Kelly. Donc, peut-être que ça sera le prochain député G. Kelly qui va pouvoir siéger dans cette circonscription-là. Bon, gars, je te vois être ému. Je pense que si t'as un job, genre, c'est ta job, tu fais du 9 à 5, tu sais... C'est bien sûr que tu te poses la question de même, ta famille, c'est plus important. Mais là, il n'a pas mis Marois Risky dehors de la maison. Là. Ils vont travailler dans le même bâtiment. C'est juste que Marois Risky ne va pas être dans le caucus.
Il n'a pas défendu sa femme. Il l'a défendu.
Il l'a défendu. Il est sorti, c'est le seul député libéral qui est sorti pour se prononcer, premièrement. Là. Ils se sont tous gardés de commentaires depuis le début de cette affaire-là.
Ils se cachent tout en arrière de Charles Milliard, mais c'est tous eux autres qui ont pris la décision.
Greg Kelly, il est sorti d'un média, il a parlé aux gens, puis il a dit « Moi, je pense qu'on est prêt à réintégrer Marois Risky, ma femme, peu importe comment tu la qualifies. » Et d'ailleurs, Greg Kelly, autre élément très humain à nommer, c'est que ça a été très difficile pour lui, cette crise-là, il s'en cache pas. Quand on l'entendait dans l'extrait, il était très ému.
Non, en effet, ça n'a pas été une décision facile.
Et il s'est ouvert aussi sur ses enjeux de santé mentale, Greg Kelly, cette année, en disant qu'il avait des enjeux d'anxiété et de dépression. Donc, on s'imagine que la situation dans laquelle sa famille se retrouve présentement, ça ne doit pas être facile. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a accroché dans ce qu'il a dit. Il a dit « Moi, j'ai pris un engagement envers les citoyens de la circonscription. » Dans un monde où on a beaucoup de députés qui se sont fait élire sous des bannières, puis que là, il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire, puis qu'ils décident de sacrer leur camp.
Un monde au fédéral.
Oui, mais on a pas que des députés indépendants à Québec aussi.
En effet.
Je respecte qu'il souhaite respecter son engagement envers ses citoyens en disant « les citoyens ont voté pour un parti politique, donc je vais rester solidaire de mon parti, même si ça ne fait pas mon affaire ce qui s'est passé. » Puis moi, là, je pense qu'ils ne vont pas divorcer pour autant. Puis je pense que Mme Risky a compris la décision de son chum.
Puis c'est exactement là où que je m'en allais. On passe notre temps à chialer sur les personnes qui quittent leur parti pour des raisons personnelles ou parce que leurs idéaux ont changé. Là, on a quelqu'un qui dit « Je mets ma vie personnelle de côté, je respecte mes citoyens, je respecte la démocratie, je reste dans mon parti, on m'a élu là, puis c'est pas correct. »
Bon, ça a l'air de quoi les commentaires dans la messagerie, là?
Maintenant qu'on a fait notre pitch, il y a Martin qui dit « Ah, moi aussi, je suis célibataire pour Isabelle, vous pourriez peut-être vous rencontrer. »
Ah, ben, donc.
Le reste, je te dirais que c'est pas mal équivalent, puis continuez à écrire au 418-971-1021. C'est des valeurs humaines que je parle. Hey, moi, là, je travaille pour Leclerc Communication. Ma blonde travaille pour Leclerc Communication. Si Leclerc Communication traite mal ma blonde, bon, ils le feront pas parce qu'elle était l'employée de l'année. Fait que
ouais,
je
serais bien étonné.
Mais admettons qu'ils viendraient la traiter mal. Même si faire de la radio, c'est mon rêve, je défonce la porte du patron puis j'ai dit « C'est fini! » Je chaque mon camp avec ma blonde.
T'as raison. Puis je salue ça, puis je suis d'accord avec toi.
Par contre, rien de plus précieux que mon amoureuse.
Ouais, mais la démocratie et la nation, le service de la nation, ça dépasse pas nos petites personnes, ça?
Le service à la nation?
Ouais.
Quand mon parti politique s'en prend à ma femme, le service à la nation, hey, je protège ma femme. Bon, aidez-moi, s'il vous plaît, 418-971-1021. Y a-t-il encore juste moi qui a les valeurs de l'amour?
Mais en même temps, le parti s'en prend... Après la femme qui a coulé le parti aussi. Là.
C'est ça, elle est pas blanche comme neige.
Oui, on peut dire. Oui, c'est l'intégrité. Oui, ça a été une excellente parlementaire. Ça a tout le temps été une parlementaire droite. Mais ça reste qu'elle a contribué à couler le parti dans ce scandale-là. Donc, le parti s'en prend à la personne qui a contribué à ça. Il ne faut pas l'oublier.
Il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant « Hey, je pense qu'on devrait sacrer notre meilleur député dehors. » Rien que pour faire du mal. Là.
Non, je sais.
Mais non.
Mais Pablo, il l'a-tu loué à 20 000 piastres le local dans le building de sa blonde?
Pablo a perdu sa job, d'ailleurs. Il va pouvoir se concentrer sur sa famille et sa blonde.
Mais qu'est-ce qu'ils font en gardant Marois Risky en dehors? C'est qu'ils continuent à dire « Non, 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 mais c'était pas si grave que ça, Pablo Rodriguez. »
Ouais, moi, je trouve qu'ils ont pris la bonne décision. Pas parce que je respecte pas Mme Risky, mais il y a tellement de choses en suspens. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Après ça, on va pouvoir juger. Tu sais, on le sait pas. Je veux dire, je sais même pas s'il y a un lien entre le renvoi de Geneviève Hinds, qui a tout provoqué le début de la tempête, et la question des brownies.
En effet, t'as raison.
Donc, en attendant, puis d'ailleurs, Charles Milliard, qui est le nouveau chef, là, c'est sa première semaine. Il y avait une grosse décision à prendre en arrivant.
Il l'a pris.
Il l'a pris, puis il a dit c'est pas une punition contre elle non plus. C'est juste qu'il y a trop de choses encore en suspens. Ouais. Donc, tu vois, moi, je trouve que c'est magnanime, ça.
Ben, moi, j'en ai moins contre le Parti libéral que contre Greg Kelly. Je peux pas croire qu'il défende pas sa femme.
Pau petit, là, il pleurait.
Mais non, mais je sais qu'il a passé un mauvais temps, mais défends ta femme.
Il aime ses électeurs,
Jeff.
C'est ton amoureuse. Il l'a défendu.
Ah, en tout cas. Passons à un autre sujet. Moi, Antonine, quand j'ai entendu ceci, ça m'avait fait peur. Et là, après ça, je t'explique pourquoi j'ai encore plus peur.
Pas de pause, pas de prorogation. On fait avancer le Québec. Donc, on sort les journalistes, puis on se met au travail. Merci.
On se met au travail. On continue. Mais là, il fera pas un budget pour de vrai. Là. Il était avec Éric Girard hier. C'est parce que t'sais, les deux candidats chez Free, même s'ils s'entendent pas, ils s'entendent sur une chose. Ils veulent pas faire comme François Legault.
Non, ça, c'est vrai. Les deux, il y a personne qui peut dire qu'il y a un des candidats là, qui est dans la même lignée. Il y a des gestes de rupture assez clairs.
Des deux côtés.
Bon, le dilemme là, avec l'histoire du budget. Le budget, normalement, est présenté à peu près à la mi-mars, là, après la semaine de relâche. Et François Legault a une préoccupation de démontrer une stabilité, qu'on continue de gérer le gouvernement. C'est une belle intention, mais ça marche pas tellement bien jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est possible de reporter le budget? Là, il va y avoir une rencontre la semaine prochaine entre M. Girard et les candidats à la chefferie.
Ouais.
Donc, moi, je pense que dépendamment, est-ce que les candidats sont très proches dans leur vision de ce qu'ils veulent comme budget ou très éloignés? Toi, t'es ministre des Finances, t'as deux candidats qui disent une chose puis l'autre son contraire. Hey, tu peux pas leur attacher les mains avec un budget dans ce contexte-là.
Exactement, parce que t'as pas le choix. Parce que c'est plus que la chefferie, c'est le poste de premier ministre. Fait que tu peux pas attacher ton premier ministre avec le budget du premier ministre démissionnaire.
En année électorale?
En année électorale, avec un duo Girard Legault qui, rappelons-le, nous a quand même amené à la décote, là.
Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des ajustements à faire quand tu repousses un budget. Il y a des gens qui attendent après les crédits budgétaires.
C'est clair.
Mais tu peux reporter le budget. D'ailleurs, au fédéral, ils l'ont vachement reporté, le dernier budget. Alors, visiblement, ça peut se faire. C'est sûr que le fédéral ne gère pas les mêmes choses que le gouvernement provincial. Mais moi, je pense que la semaine prochaine, on va nous annoncer que le budget va être repoussé après la course à la chefferie. Puis c'est un autre élément qui milite pour dire que je pense que la cohabitation entre l'ancien premier ministre, les candidats à la chefferie, la chambre qui siège, la course à la chefferie, c'était pas une bien bonne idée.
Non, c'est ça. Hein. Ça aurait pris une prorogation du gouvernement, un peu comme Justin Trudeau.
Ou une décision plus tôt du premier ministre.
Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu la prendre plus tôt, mais il était encore convaincu le 16 décembre quand il était venu s'asseoir en studio avec nous. Donc, faut croire que c'est venu plus tard.
On en jase jusqu'à 4.
Émission On en jase qui se poursuit. Il est député de Louis Hébert pour le Parti libéral du Canada et surtout lieutenant du Québec. Au niveau du gouvernement fédéral, il est avec nous en studio, M. Joël Lightbound. M. Lightbound, merci d'être avec nous à On en jase.
Ça me fait grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Oui, toujours un plaisir de discuter avec vous. M. Lightbound, pas le choix de commencer avec ça. Quand est-ce qu'on arrête de niaiser puis qu'on confirme le financement du tramway? Parce que là, on n'en peut plus. On va couper 1500 arbres sur René Lévesque puis on ne sait pas encore qui finance.
Bon, ben je vous confirme que le fédéral est là depuis 2018 avec presque 1,5 milliard sur la table, qui est canné, ça c'est dans la poche, dans l'enveloppe. Maintenant, ma réponse n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'est-à-dire que pour atteindre un plus haut pourcentage de financement fédéral, il y a des enveloppes, entre autres pour le transport en commun, il y a des enveloppes pour les infrastructures où Québec établit la liste de priorités à partir du moment où il priorise le tramway de Québec. Il peut y avoir des sommes supplémentaires qui s'ajoutent.
Quand vous dites Québec, c'est le gouvernement provincial.
C'est le gouvernement
provincial.
Du Québec, provincial, okay, exactement.
Et là, est-ce que ça va prendre une éternité à s'entendre les deux comme ça a pris pour le logement puis des infrastructures municipales?
C'est vrai que pour les infrastructures liées au logement, ça a pris du temps. Mais en même temps, je remarque qu'avec notre travail, l'équipe du bureau du lieutenant, avec le travail du ministre des Infrastructures, on a signé avec Québec la première entente pour Maison Canada pour bâtir plus de logements plus rapidement. Moi, je vois que sur le transport en commun, ça avance très bien. Puis il y a une volonté, certainement à Ottawa, mais que je sens aussi à Québec, pour mille et une raisons que vous connaissez mieux que moi, de livrer le plus rapidement possible, puis d'être le plus efficace possible. C'est que je suis pas inquiet. Puis dans le dernier budget fédéral, il y a 51 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures. C'est pas seulement le transport en commun, là, on s'entend, mais il y a des sommes supplémentaires, entre autres, qui peuvent aller pour le transport
en commun. C'est ce qui m'inquiète, parce que j'ai fait le calcul, ça fait 5,1 milliards par année pour l'ensemble du Canada, mais pour financer 40 % du tramway, on va avoir besoin d'à peu près 2 milliards de plus au gouvernement fédéral. Je trouve qu'on en prend un méchant pourcentage de l'enveloppe. Là.
Ben là, ça dépend parce que justement, c'est sur 10 ans, ces enveloppes-là. Puis deuxièmement, il y a une partie du financement du tramway, en effet, qu'on ne connaît pas. C'est la part que prendra CDPQ Infra s'ils prennent une part. Mais moi, je peux vous assurer qu'à partir du moment où le gouvernement du Québec, puis je sais que c'est une priorité pour le gouvernement du Québec également, à partir du moment où ils priorisent le tramway, sur les prochaines années, parce que le tramway va se construire dans les...
Oui, en effet, c'est jusqu'en 2033.
Il y a quand même l'opportunité d'aller chercher des sommes année après année qui viendraient voir à faire augmenter la part du gouvernement fédéral dans le financement du tramway. Mais je rappelle que quand on était là en 2018, on était là pour 40 % du montage.
Oui,
initial.
Exactement. Donc là, ça serait... T'sais, on veut, dans le fond, du côté du gouvernement du Québec et de la municipalité ici à Québec, 40 % de ce que va être le coût du tramway. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous dites, même pour le même projet, on va pouvoir redéposer année par année, parce que souvent, pour le même projet, on est comme bloqué à une année.
Non, on pourrait voir la part du gouvernement du Canada augmenter.
Vous êtes responsable de rendre l'appareil fédéral plus efficace. Comment ça se passe à Poste Canada depuis toutes les annonces qui ont lieu? Est-ce qu'on voit déjà une différence? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction?
Bien, il y a une différence majeure. D'abord, c'est sûr que moi, dans le fond, ce que j'ai fait là, en rappel aux auditeurs, là, c'est que j'ai levé des moratoires qui étaient en place depuis des décennies qui empêchaient Poste Canada de... En anglais, on dirait « right size », de trouver la bonne taille d'organisation pour les services qu'ils ont à accomplir. Puis le volume de lettres, tout le monde en est conscient, a diminué drastiquement. On est passé de 5,5 milliards de lettres à 2,2 milliards en l'espace de 20 ans. C'est vrai au Canada, c'est vrai partout dans le monde. Ce qui fait que Poste Canada, je veux dire, on vient de redonner un prêt à Poste Canada de 1 milliard juste pour maintenir les opérations. C'est qu'il n'y a pas le choix que Poste Canada se réforme. Ce qu'on a fait, c'est lever des moratoires, donc... permission de fermer des bureaux de poste dits ruraux, mais qui ne sont plus ruraux, souvent en banlieue, et la fin de la livraison du courrier à domicile, c'est-à-dire qu'ils puissent implanter des boîtes postales communautaires, comme on l'avait vu avec Denis Coderre, là, son marteau-piqueur
oui,
à l'époque.
Ça avait fait grand bruit à l'époque.
On s'en souvient. c'est une transformation qui est nécessaire parce que le coût par lettre dans une boîte postale communautaire versus à la porte est beaucoup plus élevé. Maintenant, pour répondre à votre question, une des choses qui a changé, c'est que pour la première fois depuis 30 ans, le syndicat et la direction se sont entendus. Donc, ça n'a pas été une loi pour les forcer au retour au travail. On n'a pas eu de... Il y a eu une grève, mais je veux dire, depuis un certain temps, là, depuis que l'entente a été signée entre l'exécutif du syndicat et Poste Canada, c'est la paix syndicale. Elle reste à être ratifiée, mais ça, c'est un pas dans la bonne direction parce que une des choses qui a beaucoup nui à Poste Canada, c'est l'incertitude. Les entreprises allaient ailleurs parce qu'elles ne savaient jamais si le service allait être disponible.
Trouvaient d'autres solutions
nécessairement. C'est vrai que là, j'ai bon espoir que l'entente sera ratifiée par les syndiqués.
Mais allez-vous m'accorder une chose, c'est que ça aurait dû être fait il y a 10 ans, tout ça. Est-ce qu'on est d'accord?
Peut-être même avant ça. Je veux dire, je suis entièrement d'accord. Puis il y a des services postaux qui se sont réinventés. Par exemple, je parlais récemment au PDG à l'époque de la Poste italienne. Puis la Poste italienne ont fait une transformation immense de leurs services en offrant d'autres services, entre autres. Puis maintenant, c'est une société qui est rentable. C'est que ça va prendre du temps avant d'atteindre la rentabilité chez Poste Canada. Ça, c'est clair, mais ça reste l'objectif. Tout en étant conscient que le pays est vaste et que Poste Canada a des missions essentielles, entre autres dans les communautés éloignées, communautés autochtones.
Avez-vous déjà un échéancier en tête de la rentabilité de Poste Canada? Vous dites que ça va prendre du temps, ça va prendre 10 ans, 20 ans ou 50 ans?
Il y a trop de facteurs qui restent à mettre en place pour vous donner un échéancier, mais on parle plus d'années que certainement de mois, là, c'est sûr.
Le fameux port à container QSL Québec, ce projet-là, le port de Québec dit qu'on attend les autorisations du gouvernement fédéral, les permis pour enclencher un projet. Oui. Selon Radio-Canada, c'était sorti dans les médias comme quoi on était censé l'annoncer lors du dernier passage du premier ministre à Québec.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les a toujours pas, ces autorisations-là?
C'est à ce stade-ci, c'est purement administratif, là. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre le port de Québec, QSL, qui est le promoteur du projet, puis l'Agence de services frontaliers du Canada. Mais je peux vous dire, ça a été mentionné dans le dernier budget, noir sur blanc, qu'on vise à diversifier nos marchés, à augmenter notre productivité. Pour moi, la certification du port de Québec comme port de container est un projet qui mérite d'être, disons, évaluer avec tout le sérieux que ça implique, parce que je veux dire, c'est des retombées économiques significatives. Ça serait bon pour le port de Québec, ça serait bon pour le port de Montréal aussi. C'est pas en opposition au port de Montréal. Ça permettrait à des plus gros navires de se décharger à Québec et de poursuivre vers Montréal. C'est que pour moi, c'est un projet qui mérite d'être soutenu. Et en ce moment, on travaille avec le port de Québec et avec QSL.
Mais ça va-tu arriver ou on fait juste miroiter le port de Québec puis finalement, le projet va tomber à l'eau?
J'aimerais ça avoir une annonce à vous faire aujourd'hui.
Parce qu'on dit que c'est de la paperasse, mais y a-tu un échéancier, un nombre de mois?
Je peux pas vous donner d'échéancier, mais on est très avancé dans les discussions avec QSL tel que ça a été rapporté.
J'ai assez hâte qu'on ait des primeurs à Boulevard 101. Je voulais me prendre sur Lightbound, on me dise « Hey, on le finance, le tramway. Hey, QSL, ça commence. »
Il y a deux scoops de notés dans ces notes.
Mais là, je prends notre prochaine primeur.
Mais sans blague, pourquoi c'est long de même au niveau administratif entre le fédéral et les autres paliers? Il me semble que j'en finis plus d'attendre.
Oui, mais c'est des décisions conséquentes quand même. Il y a toutes sortes d'analyses qui doivent se faire, entre autres par rapport au plan d'affaires, d'où viendraient les containers, quelle est la rentabilité espérée du projet. Il y a des analyses qui devront se faire une fois aussi la certification atteinte, parce que c'est un projet quand même qui doit être fait avec consultation. Certainement, le port de Québec a ses devoirs à faire aussi une fois la certification obtenue. Mais c'est vrai que c'est long, mais je regarde que quand même, ça a été mentionné dans le budget. Le budget a été déposé en novembre. On est en février. C'est pas si mal quand même.
Ouais, c'est parce qu'on en parle depuis 2 ans dans les médias de QSL, c'est pour ça. Vous êtes justement ministre de la transformation gouvernementale. Travaillez-vous pour réduire cette paperasse-là, ces organigrammes-là, faire en sorte que, parce qu'on est dans une crise économique, on a besoin de diversifier notre économie. QSL, c'est un projet super porteur pour ce qu'on veut faire. Travaillez-vous pour que ça aille plus vite? Oui, OK, go, on y va.
100%. Puis M. Carney amène ce leadership-là où c'est quand même... Je pense que les gens le voient aussi au rythme où vont les annonces, que ce soit la stratégie industrielle en défense, notre stratégie pour la souveraineté numérique, que ce soit le plan pour la réduction des dépenses. L'exercice qu'on a fait dans le dernier budget, les gens l'ont peut-être... Il y a beaucoup d'annonces dans un budget, des fois ça passe un peu inaperçu, mais réduire les dépenses opérationnelles de 15%, demander à tous les ministères de faire cet exercice-là en 3 ans, c'est quand même gros pour les ministères. Dans mon cas, ça a été un exercice considérable. Puis ça amène une réflexion à savoir est-ce qu'on a besoin de telle ou telle division, est-ce qu'il y a une manière de consolider, d'être plus efficace. Ça a été une révision, disons, verticale dans tous les ministères pour réduire les dépenses puis être plus efficace. Dans le cadre de mon...
c'est le cadre matriciel horizontal, quand les ministères ont à se parler ensemble.
Et ça tombe plus dans ma cour comme ministre de la Transformation du gouvernement. Puis je travaille beaucoup avec le ministre Champagne là-dessus. À voir, par exemple...
Y a-t-il autant d'énergie quand il était ministre de l'économie pour transformer le gouvernement?
Ce gars-là est une machine. Il a toujours autant d'énergie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, mais il est très utile. Il m'aide beaucoup dans ce mandat-là. Parce que ce que j'observe, c'est que dans les différents ministères fédéraux, c'est comme plein de paroisses avec leur propre façon de faire, leur propre responsable, par exemple, des TI, leur propre département des RH, tout ça. Donc, d'avoir une consolidation, des fois, ça peut avoir du sens. Et c'est ce qu'on vise à faire avec la transformation du gouvernement. Entre autres, avec des outils. Des fois, tu vas avoir un ministère qui développe un outil, puis un autre développe le même outil technologique.
Mais
les deux ne se parlent pas toujours. C'est ce qu'on veut changer.
On va avoir Gabriel Hardy en entrevue tout à l'heure, qui est député pour le Parti conservateur du Canada, exactement, à Montmorency, Charlevoix. Puis, dans d'autres médias, il a accusé Mark Carney, votre gouvernement, de maraudage auprès des députés du Parti conservateur du Canada. Bon, il y en a 3 qui ont traversé. Le dernier, Matt Ginneroux, hier. Faites-vous du maraudage auprès des députés conservateurs pour avoir votre majorité?
C'est pas du maraudage. Je veux dire, il y a beaucoup de conservateurs très raisonnables qui se reconnaissent juste tout simplement pas dans le leadership de Pierre Poilievre, qui se reconnaissent pas dans le leadership de Pierre Poilievre, qui n'est pas capable de dénoncer ses propres députés qui s'en vont, par exemple, Jamil Givani, cette semaine, sur Breitbart, qui est comme une des chaînes les plus à droite de la droite américaine, miner puis torpiller les efforts du Canada dans nos négociations dans le cadre de la guerre tarifaire, dire qu'on est responsable des tarifs. Je veux dire, c'est un peu fort en café là, d'aller dire, alors que lui représente Oshawa, où le secteur de l'automobile a été vivement impacté par les tarifs, d'aller dire que le Canada est responsable de cette guerre tarifaire, c'est... Pour moi, je comprends qu'il y ait des députés conservateurs qui disent « OK, on a ça ». On a Pierre Poilievre qui n'est pas capable de dénoncer clairement ce type d'initiative-là de son député. Puis en revanche, tu as le premier ministre Carney qui est à Davos, qui fait un discours qui a été remarqué à travers la planète, qui dit les choses telles qu'elles sont et qui agit en conséquence avec une vision assez claire pour que le Canada soit plus résilient, moins dépendant des Américains, qu'on bâtisse d'autres alliances. Pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des députés conservateurs qui soient tentés de venir nous rejoindre puis de contribuer à bâtir le Canada.
Bon, vous avez le rôle de lieutenant du Québec également. Vous avez donc un rôle de coordination avec le gouvernement du Québec.
Oui.
Comment ça se passe en ce moment? On a un gouvernement qui est dans une drôle de situation à Québec, un premier ministre qui est un peu canard boiteux. Est-ce que vous réussissez à faire avancer les dossiers avec Québec ou c'est comme on pense, nous, de l'extérieur, que ça ne bouge pas beaucoup là, à Québec?
Non, ça va assez bien avec Québec. Puis il y a une volonté, c'est sûr qu'il y a une échéance électorale, indépendamment de la course à la chefferie à la CAQ. Je pense où le gouvernement du Québec, mon expérience, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis lieutenant, j'ai été nommé en décembre. Il y a une volonté d'agir rapidement puis de régler le dossier. À preuve, le fonds sur les infrastructures liées au logement, ça faisait 2 ans que ça traînait, ça s'est réglé, on a annoncé ça en janvier.
C'est un bel exemple des longueurs.
Un bel exemple,
oui, des longueurs. Mais Maison Canada, le Québec, première province à signer. Quand je regarde, moi, les discussions que j'ai avec les ministres québécois, je vois pas nécessairement d'impact là, de la situation spécifique à la CAQ.
Je termine l'entrevue. Joël Lightbound, qui est député de Louis-Hébert et lieutenant du Québec, justement. Merci pour votre présence. Je termine l'entrevue en vous posant la question concernant le port de Québec. Quand est-ce qu'on va annoncer le financement? Parce qu'on le sait, les infrastructures sont très déficientes. Là. Il y a même une partie là, d'un quai qui s'est retrouvé à l'eau.
Oui, bien, le port a soumis récemment, dans le début d'année, son projet de modernisation, qui est très intéressant, puis il tombe à point parce qu'il y a dans le dernier budget, justement, il y a 5 milliards qui est pour nos corridors commerciaux, entre autres pour les ports, les aéroports.
Qui est différent des infrastructures que vous avez parlé.
Exact, exact.
Parfait.
Et
parce
dans
que
le cadre
c'est juste pas qu'on se mange entre projets, là, tu sais.
Non, mais moi, si je parle avec la présidente du port, Olga, pratiquement à chaque semaine, puis ils ont en moi un allié. Il y a déjà eu des retombées intéressantes ailleurs de ces fonds-là qui ont été débloqués, entre autres à Port-Saguenay où on finance le quai numéro 2. C'est avec moi, je vois bien la candidature de Québec. Le port de Québec, par exemple, a une situation un peu exceptionnelle. C'est un vieux port avec de vieilles infrastructures. Mais je pense que les investissements que propose le port vont pouvoir débloquer aussi beaucoup d'investissements privés. Puis c'est la philosophie de notre gouvernement et de M. Carney, c'est d'utiliser des investissements publics clés pour avoir un effet de levier sur des investissements privés. On le voit avec les grands projets, on le voit avec Contrecoeur, avec Nouveau Monde Graphite à Montréal. Pas à Montréal, mais... Donc, c'est ce type de projet-là, ça cadre très bien avec notre approche.
Monsieur Lightbound, merci beaucoup de vous être présent en studio pour nous. C'est très apprécié. Comment va la famille en terminant?
La famille s'est agrandie le 27 décembre. Une petite fille, j'ai déjà un petit gars de 20 mois maintenant.
C'est pour ça que je posais la question, justement.
Les nuits sont pas toujours évidentes.
Wow, on voit dans vos yeux, je me suis sur le travail ou les jeunes enfants.
C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais c'est du pur bonheur.
Votre conjointe va bien?
Oui, et c'est une sainte, je la salue.
Parce que
la rectitude de l'horaire en politique, les déplacements, la vie entre deux villes, ça amène à ce que les gens qu'on laisse derrière, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tous mes collègues, les partis, ça demande beaucoup sur les familles, c'est que...
Vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à François-Philippe Champagne. En plus, je le vois souvent, puisque vous êtes mon député, j'habite dans Louis-Hébert, puis je vois souvent M. Champagne dans notre circonscription.
Bon,
il est souvent là, fait que peut-être qu'il peut garder...
Oui, espionner Québec.
C'est un citoyen honorifique
en tout cas,
de Louis-Hébert.
Je ne dirais pas mes sources, mais je connais quelqu'un qui travaille à la quincaillerie sur le chemin Saint-Louis, il voit régulièrement.
C'est bien espionner Québec. Mais non, mais moi, je vois juste ça positivement. Le port, QSL, le tramway.
L'énergie...
Je peux continuer la liste, là.
Avec l'énergie qu'a François-Philippe Champagne, on va en changer des couches au quart de tour, là. Je vais le faire signe.
Merci, M. Lightbound. Après la pause à Boulevard 102A, on va faire un tour d'actualité. On va parler de déneigement aussi à la Ville de Québec. Oui, enfin, la Ville de Québec a dit on a des difficultés en déneigement. Bon, c'est pas venu de la bouche du maire, mais ils l'ont dit quand même. Et on va recevoir également Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada dans Montmorency. Charlevoix, reste avec nous dans un instant à Boulevard 102A, l'émission d'En Jase. Il est présentement 12h37. Dans exactement 33 minutes, c'est le début de la finale entre le Canada et les États-Unis en hockey féminin. Go Canada, go! Go Marie-Philippe Poulin, compte-nous un autre but en or, la fierté de la Beauce. Je salue le premier ministre Doug Ford, qui a dit à son ministre de l'Éducation, « C'est-tu ce qu'on va faire après-midi à 13h10 dans les écoles? » on va présenter le match de hockey féminin puis on va crier « Go Canada, go! » Sais-tu ce qu'on va faire demain matin à 10h40? On va présenter la semi-finale Canada-Finlande en hockey masculin et on va crier « Go Canada, go! » Parle-moi de ça, la fierté canadienne par rend l'éducation en Ontario. Et ça, c'est parfait parce que ça va montrer des modèles extraordinaires pour nos enfants. On devrait faire pareil au Québec.
Ça aurait été fabuleux, Jeff, si ça avait été ici. Tu n'aurais pas eu à justifier l'absence de tes enfants qui regardent des parties.
Exactement, mais demain, journée pédagogique pour le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Alors, je n'ai pas d'absence à justifier pour mon Édouard. Il va pouvoir regarder le match à 10h40, après s'être levé à 10h35, encore avec des crottes dans les yeux puis ça tourne sur Nutella.
Puis ça donne bien. Puis pour vrai, l'école, c'est important. Puis je pense qu'on pense tout au final. On est tous d'accord avec ça. L'école, c'est important. Mais les souvenirs que ces jeunes-là vont se créer pour le restant de leur vie.
Ben oui.
À ce moment-ci, c'est quoi le plus important? Un cours de français qu'ils vont plus ou moins écouter, soyons honnêtes, c'est des adolescents au secondaire.
Exactement.
Ou de dire on se rassemble en gang, en classe, puis ces jeunes-là, toute leur vie, vont se souvenir que jeudi après-midi,
c'est
dans leur cours de français, c'était la game de hockey féminin qui jouait, puis on a gagné l'or.
Ils vont se rappeler pour leur vie du but de Marie-Philippe Poulin, qui serait, si je ne m'abuse, son 4e but en or, si elle marque le but gagnant. C'est complètement exceptionnel. Présentement, c'est moins 1 degré ensoleillé sur Québec, moins 6 ensoleillé pour vendredi. Samedi et dimanche également, c'est du soleil, moins 5 et moins 2 degrés. Donc, on a des superbes journées d'hiver, vraiment, vraiment, vraiment. Mathias, on se disait, hey, le maire Marchand, là, ça me semble, il reconnaît jamais tort que l'administration de la ville-là, quand il reconnaît, il dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce qu'on va faire mieux? Oui. Mais on comprend jamais quand est-ce qu'on va faire mieux, puis pourquoi, puis comment. Mais là, tu me disais, hey, one minute, la ville a dit que le déneigement est problématique en basse-ville de Québec. La ville a reconnu une erreur. Explique-moi ça.
Oui, bien, c'est Édénie Lepage, qui est la conseillère du district de Saint-Roch puis de Saint-Sauveur. Elle a écrit sur ses réseaux sociaux mercredi, « C'est pire que les années passées. Si vous dites ça, t'as pas tout faux. » En parlant du déneigement dans Saint-Roch et Saint-Sauveur. Puis, justement, elle, de ce qu'elle a dit, c'est que pour elle, les standards de qualité présentement en termes de déneigement dans sa région, dans sa circonscription, sont pas nécessairement atteints. On a eu des discussions avec les déneigeurs, avec les fournisseurs, avec les entreprises privées, que les opérations, ça se passait pas comme qu'on voulait. Mm-hmm. Même présentement, on évalue de mettre des pénalités pour ces entreprises-là. Donc, de son côté, on dit c'est vrai qu'il y a un manque. On travaille fort pour que ça se règle parce qu'on est d'accord que c'est inacceptable. Puis ça, c'est une chose à faire parce que
ben oui.
Le déneigement, c'est une plainte qui revient chez tous les habitants de la
on
ville de Québec.
On le rappelle, là, après les premières opérations de déneigement, il y en avait 4 ou 5. C'était 652 plaintes qui avaient été enregistrées au 3-1 de la ville de Québec. Et Bruno Marchand disait « ça va bien le déneigement à Québec, ça peut pas bien aller avec ce nombre de plaintes. »
Ben oui, c'est ça. Puis ça, ça en dérange plus qu'un. Puis on commence à le voir sur plusieurs dossiers. Ça revient par texto, puis ça se sent de plus en plus. Communication du tramway. On fait une faute. Ce qu'on répond, c'est que on est bon en communication quand même. Je travaille fort pour la communication, puis on est bon quand même. Mais après ça, il y a des lacunes en communication. Déneigement, il y a des lacunes. Au lieu de dire à la population, comme ce qu'Eleni a fait, de dire « Hey, vous avez raison, je le vois aussi. » Puis vous savez quoi? C'est inacceptable. On travaille fort avec les entreprises pour que ça se règle.
Exactement.
On commence à se justifier avec le fait qu'il tombe plus de neige, avec le fait que c'est un hiver difficile. La population, c'est pas ça qu'ils veulent entendre.
Non,
ils veulent
tout.
Quelqu'un qui prend en compte les responsabilités, qui est à l'écoute de leurs plaintes, qui est à l'écoute de leurs besoins. Puis je pense que, puis on en parlait avec justement Alicia Despins hier, le maire Marchand va devoir s'améliorer sur ça.
Vraiment.
Parce que c'est bien beau dire « je suis à l'écoute de la population, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, puis on va faire mieux. » C'est bien beau de dire.
Mais le résultat vient pas.
C'est ça. Chaque fois qu'on nous fait ces promesses-là, qu'on va s'améliorer sur différents aspects, puis qu'on prend plus ou moins la part de responsabilité qui nous revient, ben on ne les voit pas, ces améliorations-là.
Exactement. D'ailleurs, la chronique avec Alicia Despins est disponible sur blvd.fm. Puis je fais un petit clin d'œil à notre chroniqueuse politique municipale. Hier, elle a fait une story sur ses médias sociaux avec le fait que pendant son émission, Nick Suzuki marquait le troisième but. Donc, on nous entend, moi et toi, Mathias, dans la story. C'est très, 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 très drôle. Donc, si vous ne la suivez pas, vous pouvez aller la suivre sur les médias sociaux. Gabriel Hardy vient d'arriver en studio, mais avant, Mathias, on va faire les manchettes principales dans l'actualité.
Oui, un résident de Donnacona a comparu aujourd'hui pour des accusations à caractère sexuel sur des mineurs. C'est un homme de 72 ans, Jean-Marie Gingras, qui aurait agressé deux personnes mineures, deux fillettes. Des événements qui se seraient produits en fin des années 90 sur une durée de 3 ans, alors que l'homme en question recevait les deux fillettes en famille d'accueil. Oui, oui, c'était une famille d'accueil. Les accusations qui lui sont portées présentement, c'est contact et incitation à des contacts sexuels, harcèlement et séquestration sur une des deux victimes. Ce qu'on dit du côté de la justice présentement, c'est qu'on a des doutes qu'il aurait pu faire d'autres victimes étant donné que c'était une famille d'accueil. Mm-hmm. Donc, ils sont à la recherche d'autres victimes potentielles qu'aurait pu faire cet homme de 72 ans, Jean-Marie Gingras. Deux véhicules ont été la cible d'un incendie de nature criminelle. Ça s'est passé dans le secteur de Beauport vers 7h40 ce matin à l'arrivée des pompiers. Là, le feu s'était déjà propagé à un second véhicule, puis à une partie d'un garage de toile. Heureusement, on a réussi à prendre le contrôle de la situation et à régler ça. Mais ça devient d'actualité, hein? Des incendies criminels, ça se multiplie. Pour la première fois de leur histoire, les régions de Québec et Montréal s'allient et demandent une clause grand-père, une clause de droit acquis dans le programme de PEC. C'est une demande que Bruno Marchand fait beaucoup au cours des dernières semaines. Là. Il utilise vraiment tous les médias. Chaque fois qu'il prend la parole, il parle du PEC, là, littéralement, dernièrement.
Mais d'ailleurs, Bruno Marchand se comporte comme un politicien municipal. Pas municipal, provincial, pardonne-moi. Ouais. Il oublie juste qu'il est le maire de la ville de Québec. C'est juste ça qu'il oublie, mais c'est pas grave.
Puis lorsque je dis pour une première fois les régions s'allient, c'est pas que c'est la première fois que Québec puis Montréal sont d'accord sur quelque chose, c'est que ce serait la première fois que la communauté métropolitaine de Québec puis la communauté métropolitaine de Montréal adopterait une résolution commune sur un sujet, justement. Donc l'annonce a été faite aujourd'hui de ce côté-là. L'ex-prince Andrew a été placé en garde à vue le jour de son 66e anniversaire. Il a donc été arrêté. La raison de ça, c'est faute dans l'exercice de fonctions officielles. Tout ça, c'est bien sûr lié à l'affaire Epstein. Son nom était énormément ressorti, là, comme quoi c'était un proche de Jeffrey Epstein qui s'était rendu à plusieurs fois sur son île. C'est la première fois, en fait, dans l'histoire récente de la famille royale que l'un des membres est formellement arrêté. Pour ceux qui se demandent, faute dans l'exercice de fonctions officielles, c'est quoi ça? Ben, c'est un abus ou encore une négligence qui est utilisée grâce au pouvoir qui lui est octroyé. Et je termine avec Christine Fréchette qui a prévu annuler le corridor central pour le troisième lien si jamais elle est élue chef de la CAQ et de fait même première ministre. On nous apprend aujourd'hui dans le Journal de Québec que présentement 12 millions de dollars ont déjà été investis dans cette mouture du projet. C'est pas la première fois que la CAQ recule sur un projet de troisième lien. Au total, ça a coûté 46,9 millions. C'est différent, va et vient dans les différents projets de troisième lien. Cette fois-ci, c'est 12,2 millions qu'on perdrait. C'est ce qui nous a été révélé, surtout en raison de forages qui ont été réalisés depuis le printemps 2025.
Le midi, on en jase à Boulevard Saint-Denis.
Émission en jase qui se poursuit. On a Gabriel Hardy, député du Parti conservateur du Canada pour Montmorency Charlevoix, qui est avec nous en studio. Je vous rappelle, meilleure façon de nous écouter, l'application BLVD 101 que vous pouvez télécharger sur le App Store et Google Play Store. Et si vous voulez venir voir un bon entraîneur physique, une vraie pièce d'homme, c'est sur twitch.tv /BLVD /FM. Gabriel Hardy, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Merci beaucoup de participer à l'émission en jase. Gab, j'ai pas le choix de poser la question en partant. T'es un sportif.
Oui, monsieur.
T'es un gars qui a un gym.
Oui.
Tu aimes beaucoup l'activité physique. Es-tu pour le fait que Doug Ford dise à tout le monde dans les écoles en Ontario, écoutez-moi ces deux matchs de hockey-là, ça presse?
Ben, écoute, je peux pas être contre. Hein. On s'entend qu'on est derrière notre pays puis on a le goût que le Canada gagne. Donc oui, j'encouragerais tout le monde. Moi, mon fils, je suis tellement content. Les jeunes ont négocié avec les profs. puis ils ont rentré une télé dans la classe, puis même le prof, en même temps qu'il travaillait, il checkait la game, puis là, ça criait dans les corridors.
Secondaire.
Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que le sport, l'activité physique, puis la fierté nationale, ça doit être au cœur de l'éducation, je pense, puis... C'est incroyable de voir ça aller. Fait que oui, go Canada, go. On a une médaille d'or à aller chercher.
Moi, je le racontais hier, mon fils, justement, quand j'allais chercher son meeting de football mardi soir, il embarque dans l'auto et il dit « Père, je vais rater mon cours de français demain. » Fait que là, je dis « Ah ouais, comment ça? » Et je vais écouter Canada contre la Tchéquie. Puis là, je dis « Ah ouais, ouais. » Il dit « J'ai parlé à la prof de français aujourd'hui puis elle veut pas faire comme mon prof d'histoire l'autre jour pour le premier match Canada-Tchéquie. » Avait absolument donné son cours. Fait que j'ai décidé que moi, j'écoutais Canada-Tchéquie. Et là, je lui ai fait peur 2 secondes et quart. J'ai dit, tu sais que pour ça, il faut que ton père ou ta mère motive ton absence. Et là, il m'a regardé les yeux dans l'eau, les petits genoux qui shakaient, même si c'est un grand bonhomme de 16 ans. Puis il m'a dit, tu feras pas ça. J'ai dit non.
Je vais faire un du pouce sur ce que tu viens de dire. J'ai écrit une lettre aujourd'hui sur mes médias sociaux qui parle de l'investissement qu'on a à faire dans le sport, l'activité physique, comme la santé, en fait, la santé de notre nation. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on voit l'éducation physique à l'école comme de quoi de cool. T'sais, c'est le fun, mais c'est pas essentiel. Puis, tu sais, tu parles des matières, histoire, français, mathématiques et compagnie. Puis, c'est vraiment pas pour les mettre de côté, absolument pas. C'est la fondation de l'éducation, mais il n'y a pas grand monde qui meurt à chaque jour d'avoir manqué de maths dans leur vie.
C'est vrai.
Mais les gens sont dans les hôpitaux à cause des maladies chroniques. Ils sont des hôpitaux parce qu'ils sont sédentaires. Puis on devient malade à force de ne pas bouger. Et là, on est dans un contexte olympique. On s'entend que c'est de l'élite. Puis c'est une fierté nationale, mais c'est aussi un message. Je pense que si on valorise le sport et l'activité physique comme fondation d'une société en santé physique, en santé mentale, en santé communautaire, et que les profs embarquent dans l'aventure pour dire « le prof d'éduc, c'est quoi? Il est aussi important que le prof de maths. » On va avoir une société plus en santé puis juste qui va se porter mieux.
Tu as tellement raison. Je suis d'accord avec toi parce que de toute façon, l'activité physique, ça fait partie des saines habitudes de vie. Lorsque tu bouges, tu vas mieux manger, tu vas mieux prendre soin de ton corps. La santé mentale va être bonne aussi parce que, justement, tu fais de l'activité physique. Puis regarde encore une tranche de vie personnelle. Moi, mon garçon avait été accepté dans le programme d'études internationales.
Okay.
Mais son école de quartier au primaire offrait un programme santé globale. Donc, tu avais plus de périodes d'activité physique que la normale, puis il y avait des projets spéciaux, puis des randonnées pédestres, tu le quittes.
Génial.
Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Tu vas aller à ton école de sport. Je le regrette pas, mais pas.
Ben non, puis c'est une habitude de vie que tu vas garder. Tu sais, ils l'ont démontré, hein, des jeunes qui font un sport unique, super concentré, avec spécialisation hâtive. La grande majorité, là, puis je suis pas à 51%, là, je pense qu'on est à 80%, vont arrêter le sport après avoir fini, exemple, leur carrière au cégep ou à fin secondaire et autres. Et ils vont juste adopter un mode de vie sédentaire. Ceux qui sont multisports, qui ont pratiqué plusieurs sports, qui ont un bon bagage moteur, vont rester actifs plus longtemps. Ouais. Et ça, c'est des gens qui vont être plus en santé, vont être bien dans leur peau, vont avoir justement d'autres manières de combattre le stress, d'aller ventiler. Ils vont juste être en meilleure santé physique et mentale. Puis ça, ben, on le sait, là, l'argent présentement va dans les hôpitaux parce qu'on attend toujours que le monde soit malade.
Alors qu'elle devrait aller en prévention.
On devrait prévenir. Ben on devrait prévenir. Oui, 1$ investi, c'est 3 à 20$ sauvés, avec une moyenne acceptée de 13. C'est énorme.
Ah non, c'est énorme. C'est fou. Puis quand tu parles de la multi-activité, les multisports, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai été élevé dans les patros, fait qu'on pratiquait tous les sports.
Oui.
Puis c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Fait que mes enfants font du hockey, du foot, du tennis, du baseball, du golf.
Oui.
Puis comme ça, ça leur permet d'avoir de un cercle d'amis très grand.
Très grand,
qui fait en sorte que s'il arrive de quoi dans leur vie, ils ont toujours une épaule sur qui s'accoter. Puis ça leur permet justement de diversifier les activités, de toujours faire du sport. Je suis convaincu qu'ils vont faire du sport jusqu'à leur tombe. Là,
oui,
comme ça,
puis
là.
En bout de ligne, c'est-tu quoi? Ça crée des athlètes plus complets. Tu sais, quand on parle d'un pool de gens actifs, là, ben, les pays qui valorisent le multisport sont souvent plus aux Olympiques. Parce que quand tu as un grand bagage moteur, quand vient le temps de te spécialiser dans un sport, et la plupart des sports collectifs sont développement tardif, tu arrives à 18-19 ans, tu as un large bagage moteur, tu n'es pas surspécialisé, puis ça fait de toi des meilleurs athlètes. Donc, au total, tu as plus de médailles quand tu investis dans la participation au lieu d'investir dans l'élitisme.
Tu as tellement raison.
Alors, voilà. Non. Tranche de sport.
Tranche d'activité sportive. Je salue tous les enseignants qui nous écrivent pour dire « Hey, moi, mon école, elle me dit que j'ai pas le droit de diffuser les Olympiques, mais inquiète-toi pas, je m'organise pour le diffuser. »
Let's go, l'iPad.
Hey, moi, je suis une prof de musique. Je salue Cindy, je suis une prof de musique. On a installé des TV dans l'Agora, dans la cafétéria, puis moi, la fin de mes cours, on regarde les Olympiques.
Merci aux profs d'être allumés comme ça.
Ah,
puis
oui,
c'est
merci.
Une fierté, c'est une fierté, puis c'est un bon enseignement.
Vraiment.
Puis merci d'être là.
Parlons politique. Est-ce que les libéraux font du maraudage présentement chez vous?
Ben oui.
Joël Lightbound vient de nous dire non.
Ben oui, ils font du maraudage.
Comment ils font ça?
Moi, je me suis fait approcher drôlement dans un ascenseur. J'ai été entouré de 3-4 libéraux. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, quand la porte va fermer, gang, ça va brasser. Puis ils m'ont dit, c'est comme ça que ça a commencé avec M. D'Entremont. Je suis comme, ah, ben OK, merci beaucoup.
Dans l'ascenseur.
Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a des réunions qui se font aussi. Il y a des histoires à gauche, à droite. M. Carney essaie de gouverner sans passer par la démocratie parce qu'il est habitué dans le domaine du privé. Donc, par en arrière, c'est plus facile que de déclencher des élections. Puis, c'est pas une personne qui apprécie beaucoup le Parlement. T'sais, c'est pas une personne qui aime répondre aux questions.
Il est souvent absent.
Il est souvent absent, puis il va le dire que c'est sur le dos d'aller développer des marchés. Mais, tu sais, on voit que c'est un plan. Ils veulent faire leur plan. Puis, malgré le fait qu'ils sont minoritaires, puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner. Le peuple a dit, il y a moins d'un an, vous êtes un gouvernement minoritaire, arrangez-vous, collaborez pour faire avancer le pays. Nous, semaine après semaine, on dit, écoutez, là, on veut collaborer. C'est pas parce qu'on s'oppose à quelque chose. T'sais, si 90% est bon, mais qu'il y a un 10% que nous, on dit, ça doit pas être là. Exemple, vous voulez aller fouiller dans le mal du monde. Non. Vous voulez fermer les téléphones quand ça vous tente. Non. Vous voulez enlever des libertés. On n'est pas d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble, parce que la plupart du temps, ils prennent des propositions conservatrices. Fait que, on est comme d'accord avec le fond, mais il y a des éléments à enlever. C'est pas de fermer le Parlement, c'est pas de contrer la démocratie que de négocier, surtout dans un mandat minoritaire. Puis on se fait accuser de faire des entraves puis de bloquer le Parlement. C'est pas vrai. Mais M. Carney n'est pas à Brookfield. C'est pas le boss du Canada. On est dans une démocratie. Et là, ce qu'on voit, c'est des libéraux qui essayent de gouverner sans passer par la démocratie. Et ça, c'est ce que je crois qui doit être souligné comme message.
Bien, justement, la façon que Mark Carney tente d'avoir sa majorité présentement, pour vous, c'est antidémocratique et malhonnête, de ce que je comprends.
Bien, c'est que tu passes pas par les gens, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, puis je vais être encore clair là-dessus, parce que mon nom est sorti dans quelques articles qui disaient, tu sais, j'ai gagné par une pas une grande majorité, mais tu sais, un petit nombre. Moi, je trouve que les électeurs qui te soutiennent dans une campagne électorale, qui vont faire du porte-à-porte avec toi, qui vont donner de leur argent, ils ramassent leur argent, est dur à gagner l'argent de ce temps-là, puis il n'en reste pas bien à la fin du mois, puis ils vont soutenir, puis ils vont te faire un don. Ces gens-là, c'est pas vrai qu'ils ont dit « Ouais, peu importe, là, tu iras représenter qui tu veux. » Mais par respect pour ceux qui votent, puis qui donnent leur temps, puis de leur argent, que toi, de manière personnelle, tu décides de changer de côté, ça, c'est pas bien.
Est-ce qu'on devra faire des élections dans ce cas-ci?
Bien, si tu veux ne pas représenter ton parti, mettons que tu t'entends plus, exemple, puis que
t'es Matt Généroux, exemple.
Bon, ta vision change. Donne le choix au peuple. Tu sais, t'es pas 100% de la décision. Mets ta face sur un fond rouge, puis attends de voir si les gens, c'est ça qu'ils veulent. Puis si c'est ça qu'ils veulent, reviens au Parlement, puis c'est correct. Mais de ce qu'on voit présentement, ce maraudage-là, puis cette recherche de la majorité par des moyens qui sont autres que l'élection... Moi, je trouve pas ça démocratique, puis je trouve que c'est un manque de respect envers les gens, puis je vais aller même un peu plus loin, puis je pense que c'est un sujet qu'on devrait parler. Moi, j'en parle souvent dans mes comités puis au Parlement. Il y a un grand cynisme par rapport à la politique.
C'est vrai.
Depuis, moi, j'étais pas politicien il y a un an, là, on s'entend que c'est récent.
Voilà, puis par texto, 418-971-101, on va dire, croyez-vous que la CAQ va vraiment faire ce changement-là? Non, c'est tout pareil, les politiciens.
Puis on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, vous autres, les politiciens, puis je suis comme gang. Il y a un an, j'étais dans un gym entraîné du monde, puis je lis comme les politiciens. Moi, je suis un gars en politique. Là,
oui.
Mais à un moment donné, c'est important que la démocratie elle soit respectée. On a besoin de la démocratie. Puis à chaque fois que ce genre de choses-là arrive, je trouve qu'on vient effriter la confiance du public, on vient effriter la confiance des voteurs. Hein. Puis moi, on est là pour servir les gens, on n'est pas au-dessus d'eux autres. En fait, on est à l'écoute. Ma job, moi, c'est d'amener le message de Montmorency-Charlevoix à Ottawa. Pas de dire aux gens de Montmorency-Charlevoix ce qu'ils devraient penser, c'est l'inverse.
T'es nouveau en politique, chemin, te rends-tu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se croient au-dessus de la mêlée?
écoute, je me concentre vraiment sur mes choses. Là. Ouais. Je te dirais que j'analyse pas beaucoup ce qui se passe ailleurs que de mon comté puis de m'occuper de mon monde. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je me vois vraiment comme une personne qui est au service de la population. J'aime rencontrer, j'aime discuter et j'aime aussi rencontrer du monde qui sont pas de mon opinion. Moi, je trouve qu'on est rendu dans une société qui n'aime pas entendre des opinions contraires. Puis les plus belles discussions que j'ai eues en campagne, c'est avec des gens qui ne votaient pas pour moi. Mais en bout de ligne, je trouve que le faire aiguise le faire, puis c'est comme ça que tu fais avancer. Ouais. Puis c'est pour ça que j'aime le Parlement et la démocratie. C'est on s'affronte dans nos idées, puis en bout de ligne, le peuple gagne quand on est capable de s'entendre pour les représenter. Pas quand c'est « je fais ce que je veux comme je veux, puis si tu ne penses pas comme moi, tu t'en souhaites dans le chemin ». Alors, c'est ça. Le rôle d'un député, c'est vraiment d'être là pour sa circonscription, pour ses gens, d'être à l'écoute puis d'amener les enjeux. Et quand tout le monde est ensemble puis amène les enjeux, là, on est capable d'en débattre puis de trouver des solutions pour avancer.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Hardy, qui est député pour le Parti conservateur du Canada de Montmorency-Charlevoix. On va en faire un débat parce que j'ai vu ton vidéo sur ta plateforme du 9 février dernier où tu parles du français qui est respecté partout au Canada.
Ouais, ouais.
Pas d'accord, moi, avec ça. Je fais juste me promener à Montréal puis je suis pas capable d'être servi en français. Ouais.
Ça a été, écoute, j'ai été maladroit, honnêtement, de ma manière de l'amener. J'ai parlé de ma vision qui a changé depuis que je vis à Ottawa. Parce qu'on le sait, député fédéral, tu vis à Ottawa.
En effet.
Moi, je m'attendais à travailler en anglais. Puis je suis arrivé à Ottawa, puis je suis parfaitement bilingue, puis tu sais, je suis très, très fluide. Il n'y a pas de problème en anglais ou en français. Je comprends bien, je parle très bien. Puis je parle en français à tous les jours. Je suis comme, OK, ben, salut tout le monde. Puis tous les députés à travers le Canada m'ont fait sentir, ils viennent me voir, je regarde Aaron Gunn qui est mon voisin à droite, Mike qui est juste au bord.
Ils font l'effort de te parler en français.
Oui, Kurt qui est à côté de moi. Et tu sais, Kurt, il me disait, hey, j'ai commencé le Duolingo, le français, je veux vraiment l'apprendre, j'ai le goût de le parler. Mike, il me dit, ma femme, puis mes enfants sont... Ma femme, dans le fond, elle parle plus français parce que mes enfants sont en immersion francophone, puis qu'est-ce qu'on pourrait venir au Québec, comment on pourrait l'apprendre? Puis là, ben j'étais comme, wow, tout le monde le respecte dans mon entourage, puis même que le bilinguisme est vu comme une grande richesse. Et là, quand j'étais à Calgary pour le congrès, Michelle Rampol, elle me dit, Gab, j'aimerais ça que tu viennes sur le podcast. Puis je veux que tu parles en français sur le podcast, puis je veux qu'on parle de l'importance du français, du bilinguisme, puis de la nation québécoise qui a tout à enseigner au Canada. Puis moi, ça, je trouve ça respectueux. Gaétan Mallette, il a été élu au nord de l'Ontario par une communauté à 95% francophone. Alors moi, je regarde ça, puis je suis un gars optimiste dans la vie, puis j'étais comme, waouh, le français est admiré. Le français, les gens, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils le respectent, puis qu'ils ont le goût de l'apprendre. Est-ce que c'est tous les Canadiens qui aiment les Québécois? Est-ce que tous les Québécois aiment les Canadiens? Là, c'est comme devenu un débat, comme si je minimisais le recul du français, chose qui n'est vraiment pas le cas.
Okay.
Je ne minimise pas, je me lève en chambre pour la défense du français puis pour la promotion de notre langue, puis il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de recul. Ceci étant dit, moi, ce que je vis, c'est que les gens ont l'air de l'apprécier puis ont l'air de voir le bilinguisme comme une richesse qu'eux n'ont pas.
Mm-hmm.
Puis moi, quand je vois des communautés francophones dans le pays, ça me rend fier. Puis j'ai l'impression que quelque part, ils viennent tous de chez nous, parce que dans le fond, on le sait, tu sais, Montmorency-Charlevoix, c'est le début de l'Amérique, des trois Amériques.
En fait,
ça a commencé chez nous. Fait que si tu parles français dans l'Ouest canadien, quelque part, tu as des racines, sûrement à l'île d'Orléans, dans Château-Richer, à l'Ange-Gardien ou autre. Alors, moi, ça me rend fier, mais ça a comme été pris comme si je minimisais. Et c'est
ce qui
n'est
pas le cas.
C'est vraiment pas le cas.
Puis je trouve ça intéressant que tu parles d'Ottawa parce que je suis allé à Ottawa puis je me suis fait servir en français de très bonne manière tout le long de mon séjour à Ottawa, ce qui n'est pas toujours le cas à Montréal. Puis de là, ma question, est-ce que c'est inquiétant de voir que le français est presque plus important puis plus valorisé à Ottawa qu'il peut l'être, par exemple, à Montréal présentement?
C'est certainement pas une bonne nouvelle, si c'est ça ta question. Puis moi, je pense que le français, on doit le défendre absolument. Tu sais, on est la maison mère du français en Amérique. Mm-hmm. On doit s'assurer de le rester. On doit s'assurer d'être attirant puis intéressant puis... Tu sais, je vais donner un exemple, puis je vais ramener ça à une période sombre, mais la pandémie. Il y a eu un bout où ce que mes enfants, ils étaient plus jeunes à l'époque, puis ils écoutaient des vidéos, puis à un moment donné, ils se sont mis à parler en français de France.
Oui, parce qu'il y a tellement de YouTubers en YouTubeurs
en français de France. Puis là, j'étais comme, les boys, comment ça, tu sais, vous me parlez de même. Puis là, j'ai comme allumé que c'est parce que ça les intéresse, puis ils trouvent ça cool, qu'ils se mettent à parler en français de France. Puis je me suis dit, on a toutes, nous autres, pour impressionner positivement. Pourquoi on se concentre pas sur être vraiment la place la plus cool en Amérique?
En effet.
Pourquoi le monde ne vienne pas dire, bien, au Québec, là, dans le domaine des affaires, j'avais un terme qui disait donner des volets de business aux autres. Tu sais, que t'as un gros concurrent international qui débarque chez vous, là, mais tabarnouche qui trouve ça tough faire concurrence parce que t'es vraiment ça à coche, puis t'es bon, puis tu travailles fort, puis t'es exceptionnel. Moi, je pense qu'on a tout. Le Québec a tout pour influencer positivement le reste du Canada. On a une richesse qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont, le bilinguisme. On a une histoire, on a une culture, on a une nation qu'on a. Faut être fier. Puis c'est passé par des difficultés. On est d'accord là-dessus. On n'a pas fait ça en se faisant des accolades puis du saut de mouton, là. Mais la difficulté forge du caractère. Puis le caractère, un moment donné, finit par forger une nation qui est solide puis qui sait qui y aller. Ça, moi, je pense qu'on a le droit d'être fier de ça. Puis qu'on a le droit, au lieu de tout le temps vouloir se refermer, qu'on a le droit de s'ouvrir puis de dire « Hey, venez chez nous, là. Vous allez voir comment on est hot. Puis ça va vous donner le goût d'être bilingue, vous aussi, puis d'apprendre le français. » Puis c'est comme ça, je pense, qu'on va aider notre langue à croître.
Très, très, très d'accord. Petite question personnelle en terminant. J'ai vu que Pierre Poilievre était venu s'entraîner dans ton gym quand il est venu à Québec.
Ouais.
Et es-tu en shape?
Il est très en forme.
Moi, je voyais ça, des bons biceps.
Oui, mais au-delà de ça, c'est un gars qui valorise beaucoup l'activité physique puis qui valorise l'importance de bouger puis de s'entraîner malgré des horaires complètement débiles.
Vous entraînez-vous ensemble à Ottawa?
Quelques fois, ça l'arrive. Puis, tu sais, écoute, je suis vraiment pas à son niveau là, dans le sens qu'il se promène à travers le Canada à chaque jour puis à chaque semaine puis tout ça. Mais quand on a la chance, il me demande des fois si ça me tente de venir le challenger un peu. Mais au-delà de ça, je pense que cette vidéo-là a amené l'activité physique dans la politique. Puis pour moi, c'est un de mes enjeux de vie, là. Tu sais, je me suis présenté en politique à la base parce que j'étais un porteur de messages d'activité physique. Et tu sais, peut-être que je vais le scooper, mais je travaille très fort pour avoir dans la prochaine plateforme électorale énormément de mentions sur comment on peut améliorer l'activité physique dans le pays parce que je pense que c'est un enjeu national. Puis Pierre, en venant au gym, a un peu lancé ce message-là. C'est important. Ouais. Et ça doit devenir un enjeu politique.
Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada de Montmorency-Charlevoix. Merci pour ton passage en studio à Boulevard 101.
Merci à vous autres.
Tu reviens n'importe quand parler d'activité physique. Non, non, mais moi, ça me passionne. Moi, il faut que les jeunes bougent. Ouais. La mère des enfants est enseignante en éducation physique.
Et voilà.
Ma conjointe actuelle est une coureuse. Elle s'entraîne comme une machine. Nos quatre enfants maintenant de notre famille recomposée bougent. Faut être en forme physique parce que le mental suit. Puis comme tu l'as si bien dit, on passera pas 20 années dans les hôpitaux. Ça va être juste à la fin de notre vie. Puis on va la prolonger, cette belle vie.
Il y a un terme qui dit « Le but dans la vie, c'est de mourir jeune le plus vieux possible. »
C'est ça.
Ben, c'est ça. T'sais, tu veux avoir 90 ans, puis être encore en train de jogger, faire du vélo, aller avec tes petits-enfants, puis jouer au golf.
Plein ça. J'ai fait le pantathlon des neiges avec la gang de week-end samedi dernier. Il y avait des participants 78, 82, 84 ans.
Merci. Merci de démontrer l'exemple.
Ah oui, je les regardais, puis je me disais « Ouais, c'est ces monsieur-là que je veux être plus tard. »
Exactement.
Merci, Gabriel Hardy.
Merci à vous autres.
Toujours un plaisir. Rémi Villemur suit excellent chroniqueur au 99.5 Montréal qui va s'en venir avec nous. On va revenir sur le cas Marois Risky qui a été exclu du caucus par le nouveau chef Charles Milliard, mais on va aussi parler de Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal, Mathias, parce que figure-toi donc qu'elle s'est donnée pour ses 100 premiers jours une note de 80%.
C'est bon, 80%.
80%, c'est bon. Moi, quand les gars me ramènent 80% à l'école, good job les boys, on tape là-dedans. Puis c'est pour ça que des fois, ils ont un petit spécial d'écouter le Canada à place d'être dans leur cours de français. Donc, est-ce que c'est véridique, cette
note-là?
Est-ce
qu'elle mérite cette note-là?
Est-ce qu'elle le mérite vraiment? On va parler de notre métropole. Faut toujours en parler. On vient d'en parler pour le français. Faut toujours en parler. C'est le moteur économique du Québec. Donc, on va parler de ceci avec Rémi Villemur dans un instant à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
Juste tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui, on jase. On jase d'actualité, on jase de politique, on jase de sport. On jase de ce qui vous intéresse pour la ville de Québec et ce qui se passe en province. Ce qui se passe aux Jeux olympiques. Début de la finale, Canada-États-Unis, c'est toujours 0-0. Il y a 2 minutes de jouer dans le match. Go Canada, go, c'est en hockey féminin. Allez, Marie-Philippe Poulin, va nous marquer un but. Le but de la victoire, le but pour la médaille d'or.
Puis on croise les doigts parce qu'elle va être difficile d'aller chercher cette médaille d'or-là. L'équipe américaine en hockey féminin qui est solide, là, mais vraiment solide. Là. Fait que c'est un gros match devant nous.
Faut jouer un match hermétique. 418-971-1021. Dites-moi donc, êtes-vous en train de regarder le match Canada-États-Unis au niveau du hockey féminin? Moi, c'est sûr que je regarde ça pendant l'émission et après l'émission. BLVD.fm, c'est la web radio. C'est aussi les meilleurs moments de l'émission. La chronique avec Rémi Villemur, qu'on reçoit chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h10, va être disponible après l'émission. BLVD 102.1, l'application sur App Store, Google Play Store. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, ah ouais, va télécharger ça. Tu vas pouvoir nous écouter partout où tu te déplaces. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio et justement parler sur le chat aussi avec les amis. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Il y a notamment le caucus avec Antonine Iaccarini qui va s'y retrouver tout à l'heure, où j'ai fait mon plaidoyer en faveur de Marois Risky. Et j'ai dit, Greg Kelly, il n'y a pas d'allure. Faut prendre la part de nos femmes et de nos blondes. Sinon, qui va défendre nos femmes et nos blondes? Ça sera certainement pas Elisabeth Lemay avec ses envolées lyriques contre les hommes. Et on va aller rejoindre justement un homme très intelligent qu'on apprécie énormément dans notre émission, Rémi Villemeur. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Ta première job en tant qu'amoureux, là, c'est de défendre ta blonde quand la gang est contre elle parce qu'elle a fait ressortir de la corruption de Pablo Rodriguez?
Ben oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas tellement une décision, une discussion politique. Ça. Greg Kelly fait son travail de chum, de père. Je pense même qu'ils sont mariés. Donc.
Ouais, mais là, en restant dans le caucus, il fait son travail. Moi, je trouve qu'il aurait dû claquer à la porte du caucus.
Oui, mais moi, depuis le début, j'ai l'impression que c'est une décision qui a été prise à la maison, puis que peut-être même, là, on spécule énormément, là, mais peut-être même que Marois Risky lui a dit « Écoute, j'ai déjà fait suffisamment de mal au parti. Fait que là, tu sais, toi, qui es aussi le fils d'un ancien député, il faut savoir que Grégory Kelly, c'est le fils de l'ancien député de Jacques Cartier, donc la circonscription de Jacques Cartier, c'est dans l'ouest de la ville de Montréal, fait que ça s'est transmis de père en fils, bref. Il y a peut-être eu cette discussion-là. Ça demeure un parti qui reste généralement soudé. C'était assez inédit de les voir se déchirer comme ça la chemise en public, de se voir laver leur linge sale en public. Mais moi, depuis quelques mois déjà, j'ai amorcé une réflexion autour de la... Non pas de la personne de Marois Risky, mais de la politicienne qu'elle est. L'individu, laissons tomber. Là. Laissons tomber Greg Kelly, Marie. Mais ça fait des années qu'on dit que Marois Risky, c'est l'avenir du Parti libéral du Québec. Quand elle a annoncé qu'elle ne voulait pas se représenter, qu'elle n'était pas intéressée par la chefferie, il y a quand même eu des sondages qui ont demandé aux Québécois si c'était elle, disons, là, la prochaine chef du Parti libéral, voteriez-vous pour elle à la prochaine élection? Puis, alors même que François Legault était au sommet de la gloire, c'est elle qui le chauffait le plus. Mm-hmm. Les Québécois ont toujours aimé Marois Risky. Les médias ont toujours dit qu'elle est chevronnée, elle est redoutable, elle travaille fort, elle est honnête. Elle est aimée à l'intérieur du caucus. Et moi, j'avais aucune raison de croire que c'était faux. Mais j'avais aucune raison de croire que c'était vrai non plus, dans la mesure où, au Québec, on est bon pour se construire des personnages. Et souvent, il y a les bons, les mauvais, les populaires, les impopulaires, le noir, blanc, tatati, tatata. Donc, moi, avant de rencontrer quelqu'un, avant d'interviewer quelqu'un, avant de discuter de façon très intime avec quelqu'un qui connaît quelqu'un, je ne me fais pas d'idée arrêtée sur quelqu'un. Et là, je vous invite à vous rappeler une affaire. Avant que Marois Risky annonce qu'elle congédiait Geneviève Hinze, avant qu'elle se présente au bureau avec un des avocats, avant que ce conflit-là commence, il y avait déjà un bruit qui courait, un bruit qui nous disait quoi? Le leadership de Marois Risky, qui était leader parlementaire du parti, est contesté. Ce n'est pas une, et je cite, « joueuse d'équipe ». Ça, c'était dit, ça, en passant. Et là, je voyais des gens autour de moi dans le milieu médiatique qui se disaient « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Il me semble que c'est le personnage, justement, c'est le bon personnage, c'est la bonne, c'est ici. Ben oui, mais l'être humain est complexe. L'être humain est complexe. Ça se pouvait qu'avant qu'elle soit les deux parlementaires, elle avait effectivement cette réputation-là et qu'elle défendait bien puis qu'il n'y avait pas de raison d'en douter. Mais tout indique que, vous allez voir où je veux en venir, que ce n'était pas aussi simple que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le Parti libéral du Québec, qu'est-ce qu'il avait besoin de plus qu'un nouveau chef? Il avait besoin de Marois Risky au caucus.
Ça, c'est clair.
Et pourquoi ils ont décidé de la laisser sortir? Parce que c'est ça qui est arrivé. Charles Milliard a dit « Je vais rencontrer mon caucus, je vais les consulter. » Il est sorti de la salle et il n'y avait pas l'appui du caucus. Il a dit « Ça va être ma décision », mais il avait consulté
le caucus. Ça a été la décision du caucus, là.
Ça a été la décision du caucus. Pourquoi pensez-vous qu'il ne voulait plus de Marois Risky, malgré le fait qu'il savait, puisque le modeste commentateur que je suis le sait, que c'est exactement ça dont ils avaient besoin pour redorer l'image du parti? Ben, c'est parce qu'elle leur a fait tellement mal, et avant qu'elle ne leur fasse mal, son leadership, je le rappelle, ça avait coulé, était contesté, pas une joueuse d'équipe, ils se sont dit « non, on n'en veut pas ». Donc, il faut, je pense, retourner à la planche à dessin. Marois Risky n'était manifestement pas le personnage politique qu'on avait bien dessiné dans l'espace public. On avait des raisons de le croire. Pour faire la chronologie, ça n'a pas commencé avec l'affaire Geneviève Hinze. On avait des raisons de croire ça avant le contraire. Il faut être plus travaillant quand on vient à construire des personnages. Je pense qu'on est paresseux des fois, Jeff. C'est-à-dire, on veut des bons, des mauvais, des populaires, des impopulaires. Puis les populaires n'ont pas de défauts, les impopulaires en ont plein. C'est pas aussi simple que ça.
Depuis tantôt que tu parles, puis j'ai une image en tête, Rémi, puis je suis certain que tu vas la trouver drôle. J'ai l'image de la WWE, la lutte, où il y a toujours des bons puis des méchants. Puis là, t'es dans la foule, tu hues les méchants, puis tu acclames les bons. Mais à un moment donné, tu te fais surprendre parce que le scénariste, il a décidé que le bon, il sortirait de bord, puis il devenait méchant. Puis là, tu te mets à le détester. Fait que depuis tantôt, j'ai cette image-là en tête.
Oui, puis en ce moment, je lis beaucoup de gens dire « Ah, voici le fait que les députés aient refusé qu'elles reviennent au caucus, qu'elles réintègrent le caucus, c'est bien la preuve que ce parti-là préfère la collusion, préfère la corruption. » Écoutez, là, j'ai pas ma carte de membre du Parti libéral, je suis pas exactement un fan de ce parti-là, mais je pense qu'il faut creuser encore plus loin. Marois Risky, la relation avec le Parti libéral, elle commençait déjà à perdre de ses plumes avant l'affaire Geneviève Hinze. Quand on lui a donné le leadership parlementaire, son leadership a commencé à faire des remous à l'intérieur du parti. Il y en a qui ont commencé à trouver qu'elle n'écoutait pas beaucoup, qu'elle était plutôt autoritaire, que pour une personne qui s'en allait là, en octobre 2026, elle n'était pas exactement en train de passer le témoin aux prochains qui, eux, avaient annoncé qu'ils restaient. Donc, c'est ça qui s'est exprimé à l'intérieur du caucus. C'est pas juste l'idée de « elle nous a fait mal en lavant son linchal public », c'est « regarde, on a la possibilité de couper les ponts définitivement avec elle, on va en profiter ».
Est-ce que les libéraux auraient dû travailler quand même pour reconstruire les ponts? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas travaillé fort. Et à cet effet-là, je te fais entendre Andréa Morin, députée de l'Acadie, en conférence de presse ce matin.
Le message est le suivant. Écoutez, dans toute formation politique, là, on a un caucus. On discute au caucus. Les discussions du caucus sont confidentielles. Par la suite, notre chef a pris une décision et je suis solidaire entièrement de la décision de mon chef.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Andréa Morin qui dit « il y a le caucus avant tout, puis on prend des décisions en caucus », est-ce que justement le caucus était tellement tanné qu'il s'est braqué et n'a pas vu par contre cette perspective politique-là de dire « ça serait important qu'elle revienne avec nous autres pour la popularité du Parti libéral »?
Non, moi, ma lecture est différente. Moi, je pense qu'on a pris un risque énorme sur le plan politique en passant à côté de ce qui aurait été la meilleure décision à prendre, soit de garder l'une des parlementaires les plus populaires à l'Assemblée nationale auprès de la population. Et donc, le backstory, là, l'impact négatif qu'elle avait eu à l'intérieur du caucus a surpassé l'opportunité qui était la meilleure et qu'ils ont décidé de rejeter. Je veux dire, si un reproche qu'on ne peut pas faire aux libéraux, c'est de comprendre la joute politique, c'est de comprendre ce que c'est qu'un jeu d'opportunité, ce que c'est que le carriérisme opportunité, et malgré ça, ils ont décidé de tenir leur bout. Et ça nous révèle, mais on n'a pas tellement de preuves, mais ça nous révèle l'ampleur de l'impact négatif qu'elle a eu à l'intérieur du caucus. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Et Marois Risky, rappelons-le, elle voulait revenir. Elle avait dit à des journalistes, lorsque ça faisait demander « voulez-vous réintégrer? » Et elle a dit « moi, ce n'était pas ma décision de sortir du caucus. Moi, je n'ai pas démissionné du caucus, j'ai été exclu. Moi, j'ai voulu faire la chose qui était à faire. » Et en passant, je veux juste dire une chose, je ne pense pas du tout qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire.
Moi, je comprends.
Depuis le tout début de ce scandale avec Geneviève Hinze, tout indique qu'elle avait raison, les preuves commencent à s'accumuler. Moi, ce dont je vous parle, c'est avant l'affaire Geneviève Hinze. C'est l'espèce de période un peu ombrée qu'on a oubliée dans l'analyse de ce qui se passe en ce moment. Exactement.
Ouais, je comprends. Merci Rémi pour ton opinion. J'adore toujours jaser avec des gens qui ont une opinion différente de moi et tu m'amènes à réfléchir. Parce que je me chicanais tantôt avec Antonine. C'est pas vrai, on peut pas chicaner avec Antonine là-dessus. Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle mairesse de Montréal, est déjà rendue à 100 jours à la mairie et elle se donne la note de 80%. Je suis à Québec, mon Rémi. J'ai regardé ça, j'ai dit le déneigement est encore mauvais. Il y a encore plus de nids de poules. Puis elle n'a pas l'air d'avoir réglé grand dossier en 100 jours. Fait qu'elle mérite-tu vraiment 80%? C'est-tu moi à Québec qui regarde Montréal de loin comme vous nous regardez avec le troisième lien ou je suis pas dans l'erreur?
Ben, une chose d'abord, j'ai essayé de chercher ce matin, là, puis en toute franchise, j'ai pas cherché très très longtemps parce que c'était pas si important que ça, mais je voulais savoir si elle s'était donné la note ou si on lui avait demandé de s'en donner une.
Ouais.
Mais dans tous les cas, se donner une note, c'est quand même une bien bonne idée. Hein?
Non, c'est
quand
ça.
Quand on va à l'école, c'est au professeur de nous donner une note. En politique, c'est aux citoyens de nous la donner. Mais peu importe. Moi, je pense qu'elle fait un très bon boulot jusqu'à présent. Je vais vous donner un indicateur de succès et de réussite qui est très négligé dans l'analyse des 100 premiers jours de son mandat. Elle consulte davantage que Valérie Plante et elle consulte auprès d'organismes qui étaient beaucoup plus proches de Projet Montréal. J'en nomme un en particulier, Vélo-Québec. Vélo-Québec, en 10 ans de Valérie Plante, écoutez bien ça, là, en 10 ans de Valérie Plante, a dit à mon micro au 99.5 à Montréal qu'ils avaient réussi à rencontrer Soraya Martinez-Ferrada davantage que Valérie Plante en 10 ans et donc en 100 jours. 100 jours versus 10 ans. Vélo-Québec, Vélo-Québec.
Ça ressemble ici à nos gens des chambres de commerce qui ont plus rencontré Christine Fréchette depuis qu'elle est à la campagne à la chefferie de la CAQ que Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien et François Legault réunis depuis 8 ans.
Oui. Donc, ça, elle avait dit, on va consulter et elle le fait. Donc là, je ne sais pas s'il faut faire... Faut applaudir ou pas, ou faire le procès de Projet Montréal. Peut-être qu'il faut faire les deux. Mais moi, je ne me serais pas attendu, par exemple, à ce que des organismes comme Vélo-Québec, qui défendent donc la mobilité comme ça de vélo, aient la chance de rencontrer davantage une mairesse qui avait dit, ben, une candidate à la mairie de Montréal qui avait dit lors de la course qu'elle allait, encourager ça de façon aussi intense que n'avait pu le faire Projet Montréal. Donc, j'ai été étonné par ça. Après, au-delà de la consultation, il faut quand même convenir que la plupart de ce que Soraya Martinez-Ferrada considère comme des réalisations sont en réalité des débuts de quelque chose. T'sais, elle dit, j'avais promis un audit sur les pistes cyclables, le voici. Ouais, mais enfin, je veux dire, là, ce qu'on a envie de voir, c'est le résultat de l'audit. C'est pas d'avoir lancé l'audit. Elle a eu juste 100 jours, on va attendre. Mais elle dit, bon, je viens de lancer une escouade pour l'itinérance, une escouade tactique pour l'itinérance. Est-ce que ça fonctionne, ce truc-là? Mais moi, avant que quelqu'un se donne une note, j'aimerais voir si ça marche. Une idée, c'est bien, mais je veux dire, l'initiative, c'est pas suffisant, il faut voir le résultat. Donc, moi, je pense qu'elle travaille fort. Elle dit que son équipe est déjà exténuée. Donc,
oui, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça bizarre, là.
Ben, en fait, c'est pas bizarre si sa gang travaille comme des déchaînés. Je veux dire, c'est ça que ça fait quand travailler comme des déchaînés. Ça te rend exténué. Moi, à la fin de mes semaines, je suis exténué parce que j'ai travaillé comme un chien. Donc, c'est la même affaire qu'on lui souhaite. On souhaite que ces équipes soient exténuées. Il y a du travail à faire. Puis pour ce qui est des nids de poule, parce que c'est le dossier à Montréal, ben je pense que la part de responsabilité, c'est 50-50. Là. 50-50, 50. Donc, ancienne administration, 50 la sienne. Moi, j'aime pas l'entendre me dire « Je suis arrivé au mois d'octobre puis on avait du matériel scrap. » Non, ça marche pas, ça.
Non, c'est ça.
Ça fonctionne pas. Tu avais le temps de le réparer, d'en acheter d'autres. Enfin... Ça ne fonctionne pas. Après, c'est vrai que quand on hérite d'une administration qui n'a pas vraiment suivi ça au clair et de façon très sérieuse, ces dossiers-là, ben, on ne peut pas faire des miracles non plus.
En effet. Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te parler. On te parle les mardis et jeudis aux alentours de 13h10. Tu es également animateur au 99.5 de 18h à 19h du lundi au jeudi, le samedi matin, en compagnie de Jacinthe Varel de 8h à 10h. Merci, mon chum, pour ta présence et on se reparle mardi prochain. Je te souhaite un bon week-end.
Bye-bye à vous deux.
Ciao. Salut, Rémi. Après la pause, on parle avec un chroniqueur que vous aimez, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, analyste politique senior. Mathias, on s'est fait avoir hein, avec sa clique, 1,1 milliard, puis c'est pas fini.
Bien, on s'est fait avoir avec sa clique, mais on se rend compte qu'on se fait peut-être avoir tout court avec le prix qu'on paye pour la Société de l'assurance automobile du Québec.
On va comparer le prix qu'on paye avec l'Alberta puis les services qu'on reçoit. Vous n'êtes pas prêts. Assoyez-vous bien calmement parce que vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise à On en jase à Boulevard 102 avec Gabriel Giguère dans un instant. Émission On en jase, exactement 13h33 minutes. C'est un nouvel auditeur, ben On en jase, c'est fort simple. On parle d'actualité, de politique, on regarde les grands enjeux pour toi. On se concentre beaucoup sur ce qui se passe dans la ville de Québec, notre belle ville de Québec. C'est important d'en prendre soin. On jase aussi de sport parce que c'est 0-0 à l'heure actuelle entre les États-Unis et le Canada. On est fin de première période, il reste 6 minutes 20 secondes à la première période. À la météo, moins 1 degré ensoleillé pour le moment, moins 6 ensoleillé au maximum pour demain, moins 5 et moins 2, toujours du soleil pour samedi et dimanche. Donc, belle semaine hivernale qui se poursuit. Manquez pas que ça me fait penser. C'est dans le cadre du dans le cadre du Carnaval de Québec, mais prolongé là, en fin de semaine, à l'espace 400e. 14h à 15h, la NSPW fait un gala de lutte dehors. Si vous voulez aller faire un tour, il va annoncer vraiment beau. Alors, c'est un événement que je trouve très funky. Alors, je voulais juste faire une petite mention pour la NSPW à cet effet-là. Mathias, avant d'aller avec Gabriel Giguère parler de la SAAQ qui nous offre un mauvais service, je pourrais dire un service de cul pour ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on a à retenir dans l'actualité?
Jean-Marie Gingrand, résident de Donnacona, comparu aujourd'hui pour des accusations à caractère sexuel sur des mineurs. On parle d'un homme de 72 ans qui avait une famille d'accueil. Puis en fin des années 90, sur une période de 3 ans, il y aurait eu 2 fillettes au sein de sa famille d'accueil. Il est accusé sur ces 2 fillettes-là d'avoir eu des contacts, des incitations à des contacts sexuels, de harcèlement ou encore de la séquestration sur une des 2 victimes. Donc, c'est ça, quelqu'un, des accusations assez dégueulasses, on va se le dire. La justice a des raisons de croire que l'homme de 72 ans pourrait avoir eu d'autres victimes potentielles, étant donné que c'était une famille d'accueil. Les statistiques sont sorties aujourd'hui concernant les médecins. C'est un nombre record de médecins québécois qui ont décidé de quitter le régime public. Là, on parle de 1049 médecins pour l'année 2025. On parlerait de 1064 pour 2026. C'est énorme, ça devient de plus en plus inquiétant. Là. Ça s'explique en partie à cause de tout le conflit avec la loi 2. Du côté du ministère de la Santé, on a réagi aujourd'hui. Sonia Bélanger qui s'est dit préoccupée, mais qui n'a pas vraiment pris en charge. Ils n'ont pas vraiment reconnu leur responsabilité.
Ben non, c'est pas de la faute au gouvernement. C'est on a perdu au-dessus de 1000 médecins, mais c'est pas de notre faute. On gère bien ça, nous autres, la santé.
Ben c'est ça. Elle a dit, lorsqu'elle s'est fait questionner sur la loi 2, elle a dit qu'ils travaillaient sur l'avenir. Puis qu'elle seulement en poste depuis le 19 décembre.
Dernier. Dans le fond, la CAQ, c'est comme le Parti libéral du Canada. C'est en poste depuis 8 ans, mais c'est jamais de leur faute.
Ça ressemble à ça, pour vrai. Pour la première fois de l'histoire des régions de Québec et Montréal, la raison, c'est pour demander une clause de droit acquis pour des immigrants temporaires. Là, donc, une clause grand-père du PEC, comme qu'on l'appelle depuis maintenant quelques semaines. Lorsqu'on dit que c'est une première fois dans l'histoire, c'est que la communauté métropolitaine de Québec et la communauté métropolitaine de Montréal s'étaient jamais alliés pour faire une résolution commune. Et là, ça se fait au sujet du PEC. On a vu le maire Marchand prendre la parole sur ce sujet-là depuis plusieurs semaines. Maintenant, Québec et Montréal sont main dans la main dans le dossier. Et je termine avec un rapport de l'Institut économique de Montréal qui est sorti justement aujourd'hui. Les Québécois paieraient environ de 60 à 65 % de plus pour les services administratifs reliés à notre assurance automobile du Québec, la SAAQ. L'immatriculation, par exemple, d'un véhicule coûte 142,35 $. Par rapport à 86,50 $ en Alberta. Donc, c'est 60 à 65 % de plus par rapport à l'Alberta. Un permis de conduire, on parle de 26,75 $ qui doivent être renouvelés chaque année. Si on compare ça à l'Alberta, c'est 19,60 $ qui, avec un renouvellement aux 5 ans. Si on compare les points de service au Québec, on parle de 134 points de service comparé à 218 points de service en Alberta. On paye plus cher et pourtant, on semble avoir moins de services.
Et pour en parler, on va rejoindre immédiatement Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, c'est le Québec, ça. On paye plus pour le moins.
Ben malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Hein? Et puis ça m'a surpris en toute franchise quand j'ai fait l'analyse de voir que ben au Québec, on paye plus cher. Mathias l'a très bien dit, on est à 142 $ par année pour faire immatriculer un véhicule. 142 $ en Alberta, on peut payer aux 2 ans. Et donc déjà, c'est plus intéressant parce qu'on n'a pas besoin de le faire annuellement. Et quand on vient annualiser ce chiffre-là, ben ça donne 86,50 $. C'est bien moins cher. Et quand on regarde aussi là au niveau du ratio de population, les Québécois ont accès à 134 points de service, on est 9 millions. Quand on regarde le nombre de points de service par million de véhicules immatriculés, c'est 22. Quand on regarde en Alberta, je rappelle qu'ils sont même pas 6 millions en Alberta, on est à 5 millions et quelques 100 000 de plus. Et donc, ça fait en sorte que on est à 59 points de service par million de véhicules enregistrés. Bref, on en a 218 points de service pour 5,3-5,4 millions en Alberta par rapport à 134 au Québec. Bref, on a moins accès à des points de service. Il faut quand même savoir qu'en Alberta, au Québec, là, on y va souvent à la SAC. Peut-être que vous n'êtes pas allé dans la dernière année, mais quand on regarde les rapports annuels, là, c'est plus qu'un million de visites en succursale. Donc, on a besoin d'y aller. Malheureusement, on paye plus cher, on en a moins pour notre argent.
Et Gab, qu'est-ce qui explique ça? J'imagine que ça va être encore la bureaucratie, les syndicats, les fameux organigrammes qui finissent plus de gestionnaire?
Ben, effectivement, le fait que ce soit très public au Québec, en Alberta, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une dynamique qui est assez différente où... Ce qui se passe, c'est que le gouvernement dit, ben, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? La prestation de service se fait par le privé, mais en plus d'offrir l'immatriculation de véhicules, d'offrir également le paiement de licence, hein, de permis de conduire plutôt. Ce qu'on voit, c'est qu'en plus de ça, on permet également de gérer la question des titres fonciers, également des services qui sont donnés concernant l'enregistrement des entreprises. Et donc, comme l'agent privé en Alberta offre plus de produits, ben, il y a plus de demandes. Et donc, on voit à travers l'Alberta qu'il y a plus de points de service et un meilleur service pour les Albertains. Donc, au Québec, il va falloir avoir une réflexion fondamentale. Puis, c'est une bonne chose que ça tombe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée en poste de Serge Lamontagne, qui est le président directeur général, hein, le nouveau président directeur général de la SAC. On est dans une posture difficile à la SAC. Hein. On parle de plus cher pour moins de points de service, mais c'est aussi les déficits qui se sont accumulés. On est un petit peu dans le beau drap à la SAC. Alors, il va falloir repenser le modèle et de commencer à penser le modèle avec celui de l'Alberta me semble être une bonne idée et une piste dans la bonne direction pour la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Oui, ben tu l'as très bien expliqué, là, la situation à la SAC, ça se passe pas très bien. La solution, elle se trouve-tu dans le privé, justement?
Ben, c'est vrai que ça se passe pas bien, là. Juste l'année dernière, on est dans des déficits, là, de 80 millions et plus. Avant ça, c'était 150 millions. Effectivement, j'ai une part de réponse qui est dans le privé de dire d'aller de l'avant avec plus de privé dans la prestation de service me semble être une bonne chose parce qu'il faut juste rappeler, là, certains chiffres en matière de lourdeur bureaucratique. Quand on regarde la Société d'assurance automobile du Québec, là, dans les derniers rapports, là, du budget, de la province de Québec, ce qu'on constate, là, c'est que la SAC, c'est l'équivalent de 5,7% du nombre de fonctionnaires au Québec. C'est énorme.
Quoi? Attends une minute. 5,7% pour une société d'État du nombre de fonctionnaires.
Alors, faut être précis, par contre. Je parle pas de l'ensemble du secteur public. On compte pas les enseignantes et les infirmières. Je parle vraiment de ceux pour plusieurs.
Ben, tu parles de la bureaucratie, là. Les fonctionnaires administratifs.
Voilà, exactement. Donc, vraiment, tous ceux qui travaillent dans des ministères, notamment, c'est presque 5 000 équivalents temps plein. Et donc, quand on regarde ça pour les agents de bureau seulement à la SAC, seulement les agents de bureau, on est à 1 400. OK, donc il y a beaucoup de personnes là-dedans qui sont dans la prestation de services. Alors, on est dans une situation particulière au Québec parce qu'on paye plus cher en tant que conducteur et on paye plus cher en tant que contribuable. Alors, on ne gagne pas et à aucune place, en fait, et plus fondamentalement que ça, on voit dans le rapport annuel 2023-2024 que même si l'équivalent temps plein a augmenté un petit peu, il y a eu plusieurs embauches. On est passé de temporaire à permanent. Et ce que ça vient dire aussi, c'est qu'en plus de payer davantage, ben, il va falloir payer les fonds de pension. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui s'accumule. Bon, c'est pas très rose comme portrait ni joyeux, mais ça reste qu'avec un diagnostic clair de la réalité, ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Et Mathias a raison de dire que ça va être du côté du privé. Je pense qu'on va pouvoir remédier à la situation. Plus d'appels au privé. Faites changer nos façons de faire également en matière de prestations de services pour élargir la possibilité de donner un meilleur service. Pas simplement la question de l'immatriculation et des permis de conduire, mais peut-être aussi la question, comme on voit en Alberta, des titres fonciers, de permettre aux gens de venir enregistrer leur entreprise là. Et là, ben, on va voir émerger un marché intéressant et des meilleurs services pour les Québécois et les Québécoises.
Gabriel Giguère, en terminant, est-ce que tu vois une possibilité que Serge Lamontagne arrive avec cette piste de solution-là du privé où tu te dis « Ah non, c'est tellement ancré cette société d'État-là qu'on n'osera pas le faire? »
Ben, je pense que si ça l'a arrivé, c'est là. C'est-à-dire que on a vu déficit après déficit, fiasco de sa clique, ça n'a pas fonctionné du tout. Et le conducteur qui va devoir essayer la facture, bref, ça ne va pas bien. Et là, ce qu'on veut, c'est remettre la SAC sur les bonnes voies. ça me semble être une solution qui est fort intéressante. Et donc, si ça a à se faire, ça va être là. Maintenant, on espère que Serge Lamontagne, le nouveau président directeur général, nous écoute pour s'assurer justement d'en donner le plus aux Québécois, parce qu'au final, en tant que conducteur, on veut le meilleur service pour le moins cher, mais aussi en tant que contribuable. C'est pas normal qu'on paye plus cher des deux côtés, là.
Non, en effet. Gabriel Giguère est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Il nous fait des chroniques à chaque jeudi dans notre émission On en jase. Gab, merci encore une fois pour cette excellente chronique et ce sujet très pertinent pour nos auditeurs.
C'est toujours un plaisir. À bientôt.
Salut, Gabriel. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Mathias, on parlait de la hausse du coût de la vie aussi avec Gabriel, puis de la hausse d'immatriculation et tout ça. Bien, on sait tous, c'est la bouffe qui coûte cher. Puis bien manger, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce que t'en pensais, Mathias, si on offrait une chance de remporter une carte cadeau de 5 000 $ chez Alimentation Première à nos auditeurs?
5 000, ouais. Ça en achète des repas. Ça en achète de la bouffe, puis de la bouffe de bonne qualité.
C'est l'équivalent d'un an de viande et de poisson. Et tout ça, c'est grâce à Alimentation Première et Boulevard. Et c'est exactement ce qui pourrait arriver. Faut que vous restiez à l'écoute de Boulevard 101, enfin, afin d'entendre le Breaking News Alimentation Première. Bon, le Breaking News, c'est pas malin, ça se retrouve dans les publicités. Là. Fait que là, ça veut dire que quand on s'en va en publicité, tu changes pas de poste de radio, Mathias. Tu restes là, parce que si tu entends le Breaking News Alimentation Première et que tu repères l'indice, tu t'en vas l'inscrire au blvd.fm et on va faire le gagnant le 23 février prochain dans l'émission Gravel dans le retour. Plus vous écoutez, plus vous avez de chances de gagner. Et disons que vous avez manqué l'indice aujourd'hui, ben... Et Colin, les boss vont me taper ça, c'est doigt. Hein? Bacon! OK, Bacon, blvd.fm, section concours. C'est pas moi qui l'ai dit. Après la pause, on regarde ce qui se passe au hockey féminin avec Alex Laramée et également l'état de santé de Sidney Crosby. On termine l'émission en force et en sport à l'émission d'En jase sur Boulevard 102.1.
C'est Jeff Fortin et Pascal CV.
À Boulevard 102, on tripe sur les Jeux olympiques. On vous en parle dans chaque émission. On a Alex Laramée du 99.5 Montréal qui nous fait des minutes olympiques également 4 fois par jour. Et on va aller justement le rejoindre pour parler des Jeux olympiques comme on le fait depuis le début des JO. Alex Laramée, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alex, 0-0 après une période entre le Canada et les États-Unis en hockey féminin. Et nos Canadiennes ont joué une solide période.
Ouais, moi je trouve qu'on s'est très bien débrouillé. On sait qu'est-ce qui est arrivé dans le premier affrontement au début du tournoi. Victoire sans équivoque des Américaines sur les Canadiennes. Ils avaient blanchi 5-0. Donc, les attentes étaient assez faibles pour la finale, mais un match de finale, c'est toujours serré. Hein? C'est pas comme un match de ronde préliminaire. Les enjeux sont complètement différents. L'ambiance est différente. Évidemment, Marie-Philippe Poulin fait partie de la rencontre. Elle n'était pas là lors du premier match. Les tirs 8-6 pour le Canada. On a eu 2 avantages numériques. Moi, je trouve que ça a aidé à générer du momentum. On a passé beaucoup de temps en zone offensive. Donc, très bonne première période pour les Canadiens.
Ah, vraiment, on va souhaiter le mieux pour la bande à Marie-Philippe Poulin. Puis on va souhaiter un jeu blanc d'Anne-Renée Desbiens. Tiens, puis nos deux Québécoises vont nous rendre fiers. Nos deux joueuses de la victoire, rappelons-le, la victoire de Montréal. Alex, demain, ce sera Canada-Finlande. États-Unis contre Slovaquie. Le Canada sera peut-être privé des services de Sidney Crosby. Il y a un mystère. À voir comment la jambe a plié, je sais pas comment notre capitaine, notre kid national va faire pour jouer ce match-là.
Ben, c'est le point d'interrogation sur le match de demain. On a vu les commentaires de John Cooper qui n'a pas fermé la porte à un retour de Sidney Crosby. Moi, comment je l'ai interprété, c'est qu'il sera pas là demain là, pour la demi-finale. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mm-hmm. Mais qu'on laisse la porte ouverte pour le match de la médaille d'or parce que je vois pas un scénario où Sidney Crosby va rater le match de la médaille d'or. Il faudrait qu'il soit amputé de sa jambe pour pas qu'il soit là. Selon moi, il va jouer, même s'il est blessé, pour les grands honneurs. Mais pour la demi-finale, je pense qu'on est en train de calculer est-ce que ça vaut la peine de risquer. Si j'avais à mettre un petit 2, selon moi, il sera pas là demain contre la Finlande.
Puis ça en prend beaucoup à Sidney Crosby pour pas qu'il joue dans des moments importants. Là, parce que quand j'ai vu Crosby, vas-tu jouer ou non, ça m'a rappelé en 2017. Il y avait eu une commotion cérébrale. Sidney Crosby c'est contre vrai. Les Capitals de Washington. Puis je pense qu'il avait raté 1 ou 2 matchs. Ouais. Puis il était revenu genre 4 jours après. Mais c'était une commotion cérébrale. Mm-hmm. Puis 4 jours plus tard, il était sur la patinoire puis tout était beau. Fait que selon moi, s'il peut être capable d'avoir des patins dans les pieds, si c'est pas pour la demi-finale, ça va être du moins pour la finale.
Oui, je suis d'accord, parce que si ça avait été une blessure vraiment grave, on l'aurait écarté d'emblée. À moins qu'on joue la game de faire croire aux autres que Sidney Crosby va être là ou non. Mais sûrement, même si c'est une autre équipe, il y a d'autres éléments avec le Canada que tu dois faire ton plan de match autour, des Kyle McCarr, des McKinnon, des McDavid, des Celebrini. Pour un autre coach, selon moi, je vois pas l'intérêt de faire à croire que Crosby pourrait être là s'il est vraiment blessé. Donc, moi, je continue de croire que si on se qualifie pour le match de la médaille d'or, il sera là.
Avec l'excellent match qu'il a joué en quart de finale, moi, je mets un petit 2$ que c'est Nick Suzuki qui va se retrouver au centre de Mitch Marner et Mark Stone. Êtes-vous d'accord avec moi, les gars?
Ah, totalement d'accord. On en parlait plus tôt cette semaine. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi c'était lui qui allait rater le match. Finalement, c'est Sam Bennett, là, visiblement, qui a une petite blessure. Mais selon moi, avec la performance qu'il a fait hier, le but égalisateur, on ne peut pas le retirer de l'alignement. Là, il s'est positionné comme un joueur super important. Puis on l'a vu cette saison avec le Canadien. Hein. On a souvent des buts en fin de troisième période. Vraiment. Suzuki est habitué dans ces moments-là. Donc non, selon moi, il va être.
Puis en plus, c'est un joueur de centre qui manque. Puis Nick Suzuki excelle au centre, excelle en défense. Puis qu'on le veuille ou non, c'est un peu un style de joueur similaire à Sidney Crosby. Fait que ce trio-là, qui se fait déjà bien compléter par Crosby, ben c'est un fit logique de mettre Suzuki là.
Alex, ah oui, totalement.
Alex, il n'y aura pas de médaille outre le hockey féminin aujourd'hui, soit l'or ou l'argent, soit l'or. Qu'est-ce qu'on surveille demain? Est-ce qu'on a des chances de médaille demain matin avant qu'on se parle vers 13h20 après le match du Canada contre la Finlande?
Ben, il y a le curling, ça va être intéressant à surveiller. Là. Les hommes sont en demi-finale cet après-midi. Ils vont essayer de se qualifier pour la finale. Ils sont favoris là, face à la Norvège en demi-finale. Donc, on espère quand même qu'ils vont être capables de se qualifier pour le match de la médaille d'or. Sinon, demain, on a du ski acrobatique. Ça va être intéressant du côté femme. Peut-être une chance de médaille, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Sinon, il y a le patinage 1500 mètres de vitesse chez les femmes aussi, qui pourrait représenter un espoir de médaille également pour le Canada. Mais pour le reste des Jeux, je pense qu'il faut vraiment miser sur le hockey et le curling. Après ça, le reste, ça va être du gravy, comme on dit.
Go Canada, go Alex Laramé, on se reparle demain en souhaitant avoir vécu moins d'émotions que pour le quart de finale et être plus en santé physique et mentale.
Ouais, on le souhaite pour le cœur de tous les Canadiens.
Salut Alex, merci beaucoup. On parle avec Alex Laramé demain directement après le match Canada contre Finlande qui est à 10h40. C'est déjà tout pour nous. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Nick Lotler, un de nos propriétaires, sera en entrevue. Également, Sandra Foodies va venir pour sa chronique Alimentation première. Mathias Turcotte, merci beaucoup. On se reparle demain.
Yes, sir. Bonne journée.
Salut tout le monde. Merci.